Françoise Gini sur Europe 1.
16h-18h30, Laurent Ruquier.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, Michel Bernier. Toujours loué par le théâtre de la Renaissance.
Oui,
en exclusivité. Caroline Diamant aussi. Ouais. Jérôme Bonaldi. Ouais. Jérémy Michalak. Ouais. Pierre Bénichou. Ouais. Et Olivier de Kersauzon. Ouais. Bon, hier, c'était le retour d'Olivier de Kersauzon. Aujourd'hui, c'est le retour d'un autre grand voyageur, Jérémy Michalak, qui nous avait quittés depuis quasi 2 semaines.
Une semaine.
Ah, ça m'a paru deux. Ça m'a paru deux, Joujou.
Les soirées sont plus longues.
On était tristes, hein. On se le disait encore l'autre jour.
Oui, on t'a fait une espèce d'ode.
C'est vrai, comme si j'étais mort.
L'ode à Joujou.
L'émission n'est pas pareille sans vous.
Ça perd en qualité, je me doute.
Vous êtes un des rouages essentiels, hein, Olivier, de cette émission, Jérémy.
Ah, je l'ai bien senti hier.
Ah, franchement?
Ah ouais, j'avais un vide à ma droite, là. C'était un vide qui n'avait pas la même odeur, quoi, c'est tout.
Un seul être vous manquait, tout est
dépeuplé. Il est formidable, je l'ai revu cette nuit, parce que comme je suis insomniaque, je l'ai revu dans cette très belle émission, où ils ont l'air de bouffer des trucs très gras et insectes.
Non, c'était bon hier, on a bien mangé.
Sur la 5, toujours,
ouais, c'était du risotto, c'était.
Putain, mais vous me regardez tous, ça, ou quoi? Vous êtes
fous? Moi, je t'ai regardé,
vous nous manquez, on regarde, on enregistre, on repasse en boucle.
Je trouve que tu as l'air de t'y ennuyer terriblement. Ouais, fais semblant. Comment je m'amuse ici, moi? Je fais le bout en bras pour tenter là, t'es comme ça. Après, alors moi, on peut dire, bon, il est âgé, elle a eu des malheurs, tu vois, comme les gens qui me connaissent bien disent, elle a eu des malheurs. Mais toi, enfin, sérieusement, tes parents le savaient que tu serais vedette un jour.
Alors j'ai quelques mails, évidemment, pour ne pas changer les bonnes habitudes. Sylvie qui tient à compléter la chanson sur Azer. Vous vous souvenez cette dame qui avait un enfant qu'elle avait appelé Azer hier, elle m'a dit que c'était le nom d'un chien. Alors la totalité de la chanson que j'avais commencé à fredonner, c'est « J'ai moi aussi chanté la chanson d'Azer ». Donc dit Sylvie, voilà, mon chien s'appelle Azer, Azer c'est mon trésor, ça je m'en souvenais. Pourquoi ce petit mignon ne porterait-il pas des lorgnons? Jusque là on avait les paroles de la chanson, c'est après qu'on n'avait plus. Quand je vois porter des lunettes à des gens qui n'en ont pas besoin, je me dis qu'il faut que j'en achète pour en faire porter à mon chien. Là, je dois dire que c'était des paroles importantes.
Ouais, c'est puissant comme texte. Ça me réconcilie avec Bernard-Henri Lévy, moi.
Bonjour à toute l'équipe, dit Nicolas. Hier, samedi midi, en voulant sortir ma voiture de mon parking, un véhicule m'empêchait de sortir la mienne de voiture. Et je vois mon Jérôme Bonaldi, très gentiment, venir me serrer la main et ensuite bouger sa voiture. Je vous avais déjà envoyé un message pour vous dire que je tirais mon chapeau à Jérôme Bonaldi, que j'avais surpris en train de serrer la main des éboueurs. Décidément, c'est un garçon sont très sympathiques, pas aussi mignon que Joujou, mais tellement sympa. Grosse bise à lui. Signé Nicolas, c'est qui ce garçon?
Ah, je pense que c'est un type qui habite rue Broca, je vois qui c'est. Et il a une façon très intelligente de me dire, je voulais vous dire que hier vous bloquiez, mais avec mon compagnon, nous sommes d'accord pour vous dire que vous êtes une façon élégante de dire que il vivait avec un homme.
Ah, c'est pas vrai.
Bonjour Nicolas.
Je crois que c'est bien de le dire à la radio, à la France entière. Ça va me faire plaisir.
Ça va. Non,
mais c'est
pas vrai,
pas au courant que leur fils Nicolas habitait rue Broca.
C'est sa mère qui est contente.
Non, cher voisin. Sa voiture dans le parking.
Cher voisin, bonjour.
Et puis, un mec qui fantasme quand il vous voit serrer la main d'un éboueur, c'est quand même curieux. Hein. Non, Bonaldi, c'est bizarre votre rue, non? Non,
non, non, non, non.
Anne est dans le Maine-et-Loire, à Jarz. Bonjour, Anne.
Bonjour, c'est Jarzé.
Jarzé, je ne connais pas. C'est où exactement Jarzé?
Dans le Maine-et-Loire, on vient de te le dire.
Oui.
Mais dans le Maine-et-Loire.
C'est un bled de mer, je te dis pas.
Cher Olivier,
imagine-toi le 4 février à minuit, à Jarzé sur la place centrale. Comme tu dois pouvoir te régaler. Attends, hein.
Je connais très bien le Maine-et-Loire. Alors attention, voilà, je voulais savoir où précisément. Est-ce que c'était près de Chemillet, près de Cholet?
Non, Chemillet, c'est entre Angers partout, et Beaujais.
Entre Angers et...
Et enculé le petit qui est à côté, qui est à 30 bornes de là. C'est ravissant.
On connaît pas bien.
C'est entre Angers et...
Angers, à 30 km d'Angers. Et après, il y a une autre ville, petite ville qui s'appelle Beaujais.
Ah oui, c'est la région de Mme Bachelot, quoi.
Voilà.
Ah, voilà.
Ah ouais, ça, on fait des belles plantes.
Reda.
Et vous faites quoi comme métier?
Ah oui, c'est vrai, pardon.
Ah, je suis poleuse.
Poleuse, elle aussi est poleuse.
Mais pas depuis longtemps.
On en a de plus en plus, hélas, de poleurs. Et qu'est-ce que vous cherchez comme emploi?
Commercial dans l'informatique.
Reda est à Rabat. Bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Vous êtes au Maroc, c'est là où vous habitez, où vous travaillez?
Oui, je suis à Rabat, en fait. Et je travaille pour l'Office du tourisme.
L'Office de tourisme. Ah, très bien. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a à voir à Rabat?
À Rabat, il y a des monuments historiques, il y a les plages à quelques kilomètres, il y a des parcours de golf.
Eh bien, peut-être, grâce à nous, vous pourrez partir sur l'île de la Bartolas, au mât de Capelouse, au pied des remparts d'Avignon. Nous, on rêve d'aller au Maroc, vous allez pouvoir venir en Avignon. Si vous ne connaissez pas ce havre de paix et de verdure, à 5 minutes du centre historique et culturel de la ville, vous pourrez profiter 3 jours et 2 nuits de ce bel hôtel, le mât de Capelouse. Anna, ça vous tente aussi ?
Oui.
Mais pour ça, évidemment, il faut répondre à une première question. Une question pour laquelle mes camarades vont vous laisser 5 à 10 secondes d'avance. Elle concerne la une de l'Humanité. À la une de l'Huma, que tout le monde ne lit pas, voilà pourquoi je suis sûr que je vais en piéger plus d'un. On peut voir le président Nicolas Sarkozy, de dos, c'est la une de l'Huma. Mais il y a quelque chose d'un peu particulier sur la photo qui est présentée par l'Huma. Je peux même dire...
Une vitre brisée ?
Non,
on peut même dire
que c'est une photomontage. C'est-à-dire qu'on a ajouté quelque chose sur cette photo. Qu'est-ce qu'on a ajouté sur la photo où on voit Nicolas...
Un drapeau ?
Non, où on voit Nicolas Sarkozy, le président de la République, de dos.
Un sourire ?
Un sourire de dos, non.
Un pied ?
Ça, c'est Carla.
Un pied qui s'approche de ses fesses ?
Non.
Ils ont 15 jours d'avance, ils ont mis un poisson d'avril ?
Non.
Ils ont accroché quelque chose dans son dos, quand même ?
Pas dans son dos.
Sur son cul.
Dans les oreilles.
Dans les oreilles, oui.
Du persil.
Du persil, ouais. Bonne réponse, Dan. Et oui, faisons-nous entendre plus fort. Ils veulent en fait, dire que le président de la République ne veut rien entendre. Alors ils ont rajouté du persil dans les oreilles à la une de l'Huma.
On pourrait penser que c'est comme les têtes de cochon, tu sais.
C'était peut-être pas la peine de le préciser, ça.
Mais c'est pas... Comme dans les charcuteries, quoi.
Il est con, ce bonhomme.
Pardon.
Ce qui est idiot, d'ailleurs, parce qu'on a rarement vu des cochons se balader avec du persil dans les oreilles.
Surtout les cochons morts.
D'abord, c'est pas des cochons, c'est les veaux qui ont mis ça.
C'est
les têtes de veau à qui on met ça. Moi, je serais boueur, je te serrerais pas la main.
Ah non, mais on en met aussi dans les oreilles des cochons, du persil, Pierre, ah ouais. Je jure.
Avec une pomme rouge entre les dents.
Non. Comment vous avez trouvé, Anne ?
Internet.
Internet. Vous avez trouvé la une de l'Huma sur Internet.
Voilà.
C'est fou, les communistes.
Ils sont modernes.
Ils sont partout.
Anne, vous partez pour le mât de Capelouse. Vous logerez dans une chambre d'hôte authentique et soignée où le passé côtoie le présent.
Oh, j'adore.
Vos petits déjeuners seront servis au chant des cigales. À l'ombre de la paillote. Ça, c'est pas les français. Près de la piscine. Bon séjour en Avignon, Anne et Reda. Je suis désolé, mais vous avez déjà la chance d'être au Maroc, un pays merveilleux. Alors, on vous embrasse l'un et l'autre.
D'ailleurs,
merci.
Si
oui.
Vous me permettez.
Oui, Reda.
Si vous voulez faire des émissions au Maroc, nous sommes prêts à vous donner un coup de main.
C'est-à-dire, c'est combien
ouais,
un coup
c'est
de main
ça.
c'est-à-dire.
Mais
c'est
nous, on est ravis. On va vous mettre en contact avec la direction va vous donner le tarif tout de suite, Reda. On vous embrasse tous les deux. Ah, c'est une question envoyée par un auditeur. C'est rare quand ça arrive, mais là, on m'a envoyé un article paru dans le Dauphiné Libéré du 22 mars dernier. Donc, c'est tout récent. C'était hier, hein, le 22 mars. Et un des gros titres du Dauphiné Libéré, c'est Thiès. Alors, Thiès, c'est le nom d'une ville de la région. Thiez. Thiès, 2 points. Grièvement blessé, un chameau s'assied sur... Sur quoi donc ? Un chameau s'assied sur...
Sur un dos d'âne ?
Non. Sur quoi s'est assis le chameau de Thiès ?
Sur quelqu'un ?
Sur quelqu'un.
Mais c'est un vrai chameau ?
Oui, c'est un vrai chameau.
Sur un gendarme ?
Non.
Sur un chasseur ?
Non, pas un chasseur.
Dans un zoo ?
Alors, c'est dans un parc, effectivement, zoologique.
Sur quelqu'un de connu ?
Alors non, pas sur quelqu'un de connu. Pas sur un enfant.
Sur un bossu.
Sur Jean-Pierre Raffarin.
Sur une bonne... Ça aurait été drôle, par esprit de mimétisme.
Un chameau s'assoit sur un bossu.
Sur une bonne sœur.
Non.
Sur un fauteuil
roulant. Donc c'est sur quelqu'un ? C'est sur un humain ?
Oui, c'est sur quelqu'un.
C'est sur un humain. Mais c'est pas un humain connu.
Sur un prêtre.
Non, pas sur un prêtre. Ce qu'il faut maintenant, c'est
un gardien.
Non. La circonstance.
Les circonstances, mais... en quelque sorte.
C'est pas mignon.
C'est le métier. C'est celui qui nourrit les animaux.
Non, il y a une famille qui se promène à côté d'un cirque. Hein.
Sur la grand-mère.
Non. Un chameau s'assoit sur la grand-mère. Bonne réponse de Jérôme Bonnel. Un jeune enfant a échappé à la surveillance de sa famille à proximité d'un cirque installé dans la commune de Thiès. Il s'est approché, le gamin, évidemment, des animaux. Il voulait voir la ménagerie. Aussitôt, sa grand-mère, évidemment, qui prend peur, franchit le périmètre de sécurité pour récupérer le gamin qui était parti tout seul. Mais en voulant repartir rapidement pour s'éloigner des animaux, elle chute en avant devant un jeune chameau qui tout de suite la suit et s'assoit sur elle.
Ouais. C'est lourd, un chameau.
Pour une petite levrette.
Un chameau.
En tout cas, elle a eu mal, la pauvre grand-mère.
Hein. Là, tu m'étonnes. Oui.
Ah oui, surtout un chameau avec une bosse de pluie. Bah, c'est vrai, deux bosses.
Elle s'en tire avec des graves blessures à la hanche, aux membres inférieurs et à la clavicule. Elle a été transportée au centre hospitalier de Sallanches, mais elle a réussi à protéger le bambin qui, lui, n'a rien eu.
T'imagines quand tu arrives et tu dis j'ai un chameau et c'est
écrasé par un chameau.
Et tu fais ouais, bien sûr, madame, bien sûr.
Mais c'est ça.
Vous savez, cette petite chemise qui s'attache derrière, c'est tout à fait normal.
Le chameau a probablement cru, enfin, ça c'est intéressant, ouais. C'est ce que dit le journaliste Stéphane Boucher.
Que c'était sa mère.
Comment il s'appelle
Stéphane Boucher. Le jeune chameau a probablement cru que sa victime voulait jouer.
Et oui. Mais oui, mais le chameau est joueur, on le sait pas assez.
Oui, ah non, le chameau joue, le chameau
et il joue comme ça. Alors.
Et avec le chameau, on dit pas va chercher à Babal, c'est va chercher mémé.
D'ailleurs, il joue sur le chameau beaucoup. Hein.
Et comment mais elle va, la grand-mère?
Pour une fois qu'on a une vieille qui essaie de claquer avant la canicule. Quand même bien.
Non, mais vous, Pierre, qui avez bien connu les chameaux pendant votre enfance.
Et les grand-mères.
Oui, bien sûr, oui. Oui. Non, mais allez-y, continuez. Prenez vos risques. Moi, c'était plutôt une grand-mère, ça soit sur un chameau, trois morts.
Allez, un peu de musique sur Europe 1 avec Marc Lavoine et Claire Kem. On s'en souvient tous de ce duo.
Oui. Oh, là là. Je ne veux qu'il.
Voilà, c'était en 2002, une belle rencontre musicale.
Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. On est bien tous ensemble. Je rappelle que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le standard d'Europe 1 3921 ou en allant sur europe1.fr.
Europe 1, on va se gêner.
La question culture générale. Bah oui, il en faut.
Alors autant vous dire que là, il va falloir de la culture pour répondre à cette question. C'est que demain, mercredi, sort le nouveau Alice au Pays des Merveilles, version Tim Burton, évidemment. Vous êtes tous capables de me dire quel est l'auteur de Alice au Pays des Merveilles.
Oui, c'est
ça, voilà, c'était pas la question, mais c'est ça, bravo quand même. Voilà, vous montrez déjà un début de culture. Mais la version de Walt Disney, elle, Alice au Pays des Merveilles, le dessin animé sorti en 1951, est évidemment adapté du conte de Lewis Carroll. Mais qui avait écrit le scénario de ce Walt Disney Alice au Pays des Merveilles d'après Lewis Carroll?
Nabokov, non?
Non.
C'était un scénariste qui faisait d'habitude des films à Hollywood?
C'est pas quelqu'un qui est connu essentiellement comme scénariste, même si on lui doit quelques scénars. C'est un écrivain.
Un écrivain
de polar?
Un écrivain...
Français ou non?
Pas français, non.
Un
américain.
Écrivain américain de policier?
Enfin, plutôt vivant aux États-Unis, décédé aux États-Unis, mais né en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni.
Une sorte de Hitchcock?
Oui, mais c'est pas Hitchcock.
Il est connu pour des romans dans le genre noir.
Il est connu
sociaux.
Surtout pour un bouquin qui vraiment a lui aussi d'ailleurs été adapté à l'écran, qui est son œuvre majeure.
Son œuvre majeure.
Et c'est lui qui a écrit le scénario d'Alice au Pays des Merveilles pour Walt Disney. Pas celui de Tim Burton qu'on verra demain, mais celui qu'on connaît tous.
Le dessin animé.
En dessin animé.
Le type en question, il a été embêté par le macartisme? Non.
Un peu. C'est pas bête, c'est même peut-être la raison pour
il
laquelle...
Il n'est pas anglais, c'est Charlie Chaplin, non.
Non, c'est la raison même pour laquelle on nous dit que Walt Disney n'aurait pas trop mis en avant le fait qu'il avait écrit le scénar d'Alice au Pays des Merveilles.
Dans le genre Les Raisins de la Colère, le garçon qui l'aurait fait?
Non.
Non, quand même pas. C'est...
Non.
Dans le genre...
C'est quelqu'un qui est très très connu quand même.
Un anglais.
En tout cas, il était connu pour sa sympathie excessive pour les syndicats d'acteurs. Vous voyez pourquoi je vous ai répondu pour le macartisme.
Mais c'est quelqu'un de extrêmement connu.
Ah bah, en tout cas, normalement.
Mais je veux dire, c'est...
Ici, autour de cette table, je n'en sais rien, cher Michel.
C'est la question culturelle.
C'est la question culturelle. C'est celle qui, normalement, me fait tenir 5 ou 6 minutes.
Il a écrit des nouvelles pour dames.
Qu'est-ce qu'il y a, Kerso?
J'aime bien. Là, il est content de lui. La question qui me fait tenir, c'est...
Il a écrit des romans policiers.
Quand c'est un chameau et une grand-mère, là, c'est facile à trouver.
On regrette.
Ou éventuellement, le persil dans les oreilles du président à la une de l'UMA. Ok, mes questions étaient nulles. Alors voilà, je hausse le niveau. Hein. Bon, je vous demande un grand écrivain.
Est-ce que c'est un écrivain qui a écrit des romans policiers?
Policier, non, non.
Est-ce qu'il a écrit des nouvelles pour dames?
Non, non,
c'est
non.
C'est quoi des nouvelles pour dames?
De Somerset Maugham.
Somerset Maugham, au moins. Ah,
ouais. Et c'était pas des romans policiers?
Non, il a écrit de la poésie, ouais. Il a écrit des scénarios de films, des récits de voyage, des nouvelles, et puis surtout un grand, grand bouquin.
Une sorte d'Oscar Wilde?
Qu'il a écrit en 1931. Non, c'est pas Oscar Wilde, je vous ai dit qu'il était mort aux États-Unis.
Oui.
C'est pas le cas d'Oscar Wilde.
Oui.
Et
c'est pas le cas d'Oscar Wilde.
Oui, car Oscar n'est pas mort aux États-Unis.
Oscar Wilde est mort à Paris.
Ah ça, quand il s'agit d'autre chose que des grands-mères, bon, sur lesquelles un chameau s'est assis dessus, hein, on rigole moins.
On le laisse jubiler. Alors, attends, ou je lui casse son truc tout de suite.
Vas-y.
Bon, c'est Aldous Huxley.
Attends. Quoi?
C'est Aldous Huxley.
Aldous Huxley.
Ah ouais, mais il faut peut-être. Il a lu le nom ce matin dans le journal, mais bon, il n'est pas capable de le répéter.
Comment tu le dis?
Aldous Huxley.
Aldous Huxley.
Pas Aldous, Aldous.
C'est Aldous.
Aldous Huxley, tu dis toi?
Bien sûr.
Non, Aldous Huxley.
Moi, je dis le meilleur des mondes.
Alors, pour une fois, pour le coup, je sais le prononcer, on a toujours dit Aldous Huxley.
J'ai toujours dit Aldous Huxley.
L'auteur du meilleur des mondes. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
Est-ce que tu l'as vu dans le journal?
Si Joujou n'avait pas été là, alors là, vous étiez bien dans la merde.
C'est incroyable. Ouais. Sur une question culturelle, se faire foutre en l'air par Joujou. Ouais.
Surtout que faire une charade avec ça, c'est compliqué.
Ouais, c'était compliqué après si on arrivait là-dedans.
Aldous Huxley, le meilleur des mondes, quand même, Pierre.
Eh oui, le meilleur des mondes, c'est lui qui prévoyait à quel point nous allions avoir Big Brother et tout ça.
Vous êtes non, c'est Orwell, ça.
Ça, c'est Orwell avec 89.
C'est Orwell, ça, tu vois. Non,
pas ça. Il en dit des conneries.
Ça, c'est George Orwell.
Ça n'a rien à voir.
Hein, bien sûr. Faudrait pas confondre Aldous Huxley et genre Orwell. Aldous Huxley, c'est la meilleure que j'ai entendu. Mais...
Vous qui vous foutez de ma gueule tout le temps pour ma prononciation.
J'ai toujours prononcé ça comme ça.
Ah ben, je vous voyais. Bon, écoutez, peut-être vous êtes un peu du Havre.
Ouais. Finalement.
À force. Mais... Non mais à force.
Ça devient.
À part ça, dites donc, moi, ça m'a jamais plu Alice au pays des merveilles. Ça vous plaît vous comme dessin animé?
Je m'en souviens
non,
plus.
C'est un de ceux que j'aimais le moins.
Moi aussi. Pareil.
Je crois que ça plaît pas aux enfants.
C'est
Alice
trop
au pays
barré,
des...
je trouve. Ouais.
C'est ça.
Ouais.
Hein.
Barré.
On a l'impression qu'ils ont fumé un peu là-dedans.
C'est ça l'histoire, c'est qu'elle mange des champignons hallucinogènes et qu'elle est défoncée en fait.
Ah bon?
Bien sûr, elle croque un champignon, elle voit des lapins qui courent.
Elle voit des lapins qui courent, c'est un peu normal. Ouais, mais rajoute un peu.
Ouais, c'est-à-dire que le lapin, il a une grosse horloge autour du cou et puis il te parle quoi.
Olivier de Kersauzon, lui, il n'est pas dessin animé du tout. Il nous l'a dit déjà hier quand on a parlé de Dumbo, l'éléphant, dont on a appris qu'il avait un psy. Parce que Pierre, on fait une thématique en ce moment sur les dessins de Walt Disney.
Ah oui.
Et Olivier, ouais. À part Bambi, qu'il a un peu fait pleurer quand il était petit, il y a pas vraiment un dessin animé qui lui a plu. Même Peter Pan, parce que Capitaine, vous avez un côté Capitaine Crochet. Un
plus
peu,
Capitaine Igloo, moi, je trouve.
Non, mais si, c'est vrai. C'est un,
si,
un
il
grand
est aussi
pirate,
sympathique.
Un grand marin, un grand...
Continue à me faire chier comme ça, si tu vois.
Le problème, dès que j'ai vu un dessin animé quand j'étais petit, je me suis dit, ils me prennent pour un con.
Ouais,
moi j'avais 6 ans, quoi.
Ouais.
Ils me prennent pour un con, c'est pas comme ça, la vie. C'est pas comme ça, ce truc-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme les gens qui nous parlent, disant, alors, il a bien mangé sa soupe, il est content. Tu te dis, mais non, parle-moi pas comme ça, dès que t'es un peu intelligent, 6 ans. Et les gens, ils restent jusqu'à 40 ans à regarder des
scènes. Pierre, les textes
Oh, le pauvre, la façon dont elle pleure, dont il pleure, Bambi et tout ça, mais c'est ridicule.
Mais parce que, on les voyait tard à ton âge, mais moi, ma fille, je lui ai montré les Aristochats à 2 ans.
Mais moi, on avait pas le cinéma, nous, en Algérie, à ce moment-là.
Là, ils avaient des
Le cinéma est arrivé en Algérie.
Tu l'as montré à 2 ans, elle a compris à 18.
Le cinéma est arrivé en Algérie, j'avais 36 ans.
Ouais, c'est-à-dire que le premier,
c'est chameaux animés.
Le premier qui l'a vu, c'est Alice au pays des merguez.
Mais Pierre, les textes avérés, ça vous prend pas pour un idiot.
Bon, enfin, écoutez, les dessins animés, c'est sympa.
Non, mais c'est normal.
Non, mais c'est surtout Walt Disney.
C'est
qui
normal,
est
ça vous réjouit.
Moi,
ça,
j'étais
c'est...
interdite de Walt Disney chez moi.
Ah bon, pourquoi?
Ah bah, parce que mon père, c'était un peu, mais c'est quoi ces animaux qui n'ont pas de sexe? Donc. A-t-on déjà vu un lapin sans trou de balle? Donc, à partir de ce moment-là, là, c'était terminé. Ah on dit au revoir. En fait, j'ai découvert le dessin animé quand moi, j'ai eu ma fille. Il y a 23 ans.
Ça, c'est. Parce qu'il voulait qu'il baise, lui.
Ah non, mais lui, non, il comprenait pas que les animaux soient représentés d'une manière aussi lisse, quoi. Voilà.
Lui, c'était plutôt Tarzoun, la honte de la jungle.
Ouais, des choses comme ça. Bah, quand on lisait les dessinateurs de Harakiri ou de Charlie Hebdo, on voyait bien qu'ils étaient loin de Walt Disney, quand même.
Non, mais il y a parfois, quand même, ce qui éveille quand même l'intelligence des enfants, des monstres, des sorcières, des choses comme ça. Et c'est ce qu'ils préfèrent, d'ailleurs.
Ah oui. Moi, j'ai fait peur. Il y a des générations d'enfants qui ont fait des cauchemars la nuit à cause de Blanche-Neige. Ouais. La sorcière dans Blanche-Neige, c'est horrible. Ça devrait être interdit au moins de 11 ans.
Et après, va bouffer 5 fruits et légumes par jour quand on t'a fait peur avec une pomme après.
Blanche-Neige, c'est affreux.
Ça fait peur. Mais quand elle descend dans les catacombes.
Toutes les histoires pour enfants sont horribles. Est-ce qu'il y a plus horrible au monde que le petit poussé, quoi?
Caroline Diamant, j'exige. Si, j'exige de savoir ce qu'Olivier de Kersauzon vient de vous dire dans le creux de l'oreille.
Non.
J'exige. Ah, si, vous êtes viré si vous ne me répétez pas ce qu'il a dit.
Ah non, c'est trop politiquement incorrect, c'est lui qui le dit. Et c'est lui qui sera viré ou pas.
Allez, 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 Caroline, vous en avez dit pire, allez.
Il a dit Blanche-Neige et les 7 Mimimati.
On
a
c'est
dit
ni politiquement incorrect, ni drôle, je crois.
On a dit bien pire que ça, quand même.
Bien sûr, on a dit bien pire. Et politiquement incorrect, de parler de Mimimati, mais bientôt. Alors, on dit, et les 7 Sarkozy, et c'est bien. Ça, c'est politiquement incorrect.
Ah, mais c'est pas drôle non plus.
Il y a Michalak qui s'en visait, il se dit, dans trois secondes, ça va arriver sur moi.
On a fait Mimimati, passe partout, normalement, ça devrait pas te
faire. Lui, je tiens un chien de ma chienne, Alice, au pays des merguez. Tiens, je crois que j'ai pas entendu, parce que ça t'avait pas fait rire. Mais c'est tout.
Moi, je pensais qu'il avait du persil dans les oreilles. Ben non.
Je peux vous faire une confidence familiale.
Oui.
Ma femme se prénomme Alix, comme vous le savez. Oui. Et quand elle m'a épousé, les gens ont dit c'est Alix au pays des merguez. Évidemment, évidemment. Ça les a tous fait rire, sauf moi.
Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions.
Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier. Avec comme équipe aujourd'hui Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak et les deux filles, Michel Bernier et Caroline Diamant.
Le week-end dernier, on a vu des enfants traverser les jets d'eau qui ornent la grande place du Vigan à Albi. Pour quelle raison ?
Ils avaient chaud ?
Non.
Pour se laver le fion ?
Non.
Comme si...
Pour s'amuser ?
Non.
Pour s'amuser ?
Pour fêter une victoire ?
Oui, en quelque sorte.
Alors, le Vigan...
Le week-end dernier,
on a vu
le
Toulouse.
Toulouse avait battu l'Autrec ?
Non.
Wow.
Le week-end dernier, on a vu des enfants, certains un peu plus grands que d'autres, traverser les jets d'eau de la grande place du Vigan à Albi.
Ils ont gagné un diplôme, ils ont réussi un concours.
Non.
Sportif, c'est du sport derrière.
Non.
Ce sont des enfants de quel âge, petits?
Alors il y a deux frères jumeaux et une jeune fille.
Ah, c'est pas plein d'enfants.
Trois. Ah oui, c'est trois gamins.
À trois enfants.
Ah.
Vous avez, c'était un pari stupide.
C'était pas un pari stupide, mais c'était une sorte de.
Il y avait des photographes.
D'engagement.
C'était dimanche.
C'était ce week-end.
Quel âge? Ils sortaient de la messe, ils étaient
poursuivis. C'était samedi. Samedi, très précisément.
Quel âge ils avaient?
Samedi en fin d'après-midi. J'ai pas leur âge exact.
Mais c'était quelque chose qui a de l'importance pour nous aussi.
Non. Ce sont les enfants de quelqu'un de connu?
Oui.
Ah, les enfants de Danny Boone?
Non.
Qui est-ce qui met ses enfants place du Vigan à Albi?
Je vois pas où c'est.
C'est
Albi.
Le fils d'un les enfants d'un rugbyman?
Non. Qui a des jumeaux?
Mais Albi, c'est près de Toulouse.
Un rugbyman, ça aurait été bien hein, dans le coin.
La ville de Toulouse.
Hein, c'est des gens de 20 ans ou de 10 ans?
Ah non, c'est plutôt autour de. Voilà, c'est entre l'enfance et l'adolescence.
Leur papa a été acquitté à un procès? C'est Viguier, les enfants de Viguier?
Les enfants Viguier.
Ils ont 25 ans, les enfants de Viguier.
Ah non, ils n'ont pas 25 ans.
Bah attends, tu rigoles.
Bah c'est ouais. À 10 ans que remonte le fait divers, déjà.
Ouais, alors.
Mais il a les photos, qu'est-ce que vous le faites chier?
Eh bien, je te dis que les enfants, ils ont, il y a une fille, elle a au moins 20 ans, elle.
En tout cas, les enfants de Jacques Viguier avaient fait le serment de traverser les jets d'eau qui
On le savait, ça, mais il fallait nous donner le vrai âge.
On va vérifier tout de suite l'âge.
Je te dis que les enfants, ils ont au moins entre 18 et 20 ans. Voilà.
Il y a un petit, je crois, qui doit avoir 38, 37 ans.
Non, il y en a qui n'est pas de grande taille.
Non, mais c'est des vieux enfants.
En tout cas, ils avaient fait le serment de traverser les jets d'eau de la grande place du Vigan à Albi si leur papa était à nouveau acquitté par la cour d'assises. Moi, je trouve ça bien qu'il ait été acquitté parce que je trouve que ce qui compte, c'est les enfants. Hein, vous êtes d'accord?
Ah, il y a que ça qui compte.
Si les enfants pensent que leur papa est innocent, bah, il faut laisser le papa.
Bien sûr.
Non?
Ben oui.
Il n'y aurait même pas dû y avoir de procès.
Peut-être que le parquet s'est planté.
L'autre jour, j'ai vu Gertrude et Hans, les enfants d'Hitler, ils m'ont dit près totalement innocent. Et j'ai dit putain, quelle bavure, on l'a tué, dis-donc.
Alors, Clémence, 19 ans.
Ah ouais.
Guillaume et Nicolas, 16 ans.
Bah, c'est pas des enfants.
Des, 16 ans, c'est des bébés.
19 ans, c'est 19 ans, dans la majorité, on vote à 19 ans, c'est pas l'adolescence.
Mais ça reste les enfants. Ton enfant,
à 16 ans.
C'est ton enfant. Mais même à 30 ans.
Arrête de le défendre bêtement, tu t'es viré de toute façon.
De toute façon, c'était pas ça moi qui m'intéressait. Outre la bonne réponse de Jérôme Bonaldi, c'était le fait de voir que des enfants, eux, avaient décidé avant la justice que leur papa était innocent. C'est ça qui m'intéresse. Laissons autrement cette famille tranquille qui a assez souffert. Ouais,
il a demandé le père, il a dit comme laissez-nous tranquille.
Voilà, généralisons plutôt sur le fait que, est-ce que vous pensez pas que quand des enfants estiment que leur père est innocent, on doit pas acquitter le papa?
Attention, attention, sur les trois. Il y en avait une qui était pour le, qui pensait pencher pour la culpabilité et qui a fait un revirement.
En tout cas, le doute doit profiter à l'accusé, c'est plutôt bon signe.
Pas de corps,
c'est l'offre, ça. L'offre de preuve doit être faite par l'accusation.
C'est ça qu'il faut retenir, c'est jamais de corps quand
jamais,
vous tuez.
Jamais.
Ce qui est marrant aussi, c'est, il est bizarre ce monsieur Viguier, parce qu'une fois qu'il a été acquitté, il a quand même dit cette phrase qui, moi, m'a paru amusante. Quand on a souffert ce que j'ai souffert, une petite réparation matérielle me paraît normale.
Ah, ça c'est dommage. Ça, c'est le mot.
On
trop,
serait pas contre
ça.
Un petit chèque.
Ouais. Ah, je serais pas contre
petite
un petit.
Petite réparation matérielle.
Petit dommage et intérêt.
Ah bah non, ça me paraît mais tout non, à fait légitime.
Non, oh, il a raison.
Attends, il y a un procès alors qu'il n'y a aucune preuve. C'est à l'accusation de faire offre de preuve. De dire, vous avez tué la preuve. Il n'y a pas eu aucune preuve. On fait le procès. Il est acquitté. Et on le refait chier parce que, ah, le parquet trouve que c'est pas bien, que ça pourrait donner un mauvais genre.
Mais non, oui, n'empêche que.
Et donc, tu dis, tu m'as fait chier pendant 10 ans, tu vas me donner au moins mais sur le genre 1 euro par jour.
Sur le fond, je suis d'accord avec vous, Jérôme Bonaldi. C'est juste l'expression.
C'est juste qu'il
l'a dit, la petite réparation matérielle. Ouais. C'est ça qui m'amuse.
Mais au moins les frais.
Il faut qu'il rachète un matelas.
Au moins, tu payes les avocats avec.
Mais là, on dirait la dame pipi, tu sais, qui demande une pièce quand tu sors des toilettes.
Et l'amant, alors, lui doit être
oh,
mal.
L'amant, alors je lui mettrais bien mon pied dans la gueule. Alors, mais avec un plaisir, l'amant. Alors là, il roule, et machin. Oui, on avait rendez-vous à 4h du matin avec madame. Il dit ça devant le mari. Les enfants, ils ne vont pas lui manger la tête. C'est pas des enfants de chez moi. Moi, quelqu'un, il me dit ça de ma mère. Mais si
je lui envoie un chameau.
Un premier album d'une chanteuse italienne qui s'appelle Naïf. Faites du bruit, c'est la première chanson extraite de cet album de Naïf.
Comment passer un excellent après-midi? Vous restez à l'écoute d'Europe 1, c'est la suite d'Envie Gêner, c'est jusqu'à 18h30, c'est surtout avec Laurent Ruquier qui est chanceux.
C'est pas mal cette chanson qu'on a entendue avant la
pub.
Mais c'est pas un accent italien, on dirait plutôt croate.
Mais ouais. Non, roumain. C'est une italienne qui parle français. C'est
non,
comme...
on dirait une française qui se fout de notre gueule et qui dit qu'elle est italienne. Ouais.
Ah oui, je connais pas une italienne qui fait fêter des bruits.
20 000 pancartes multicolores ont été vues dès hier à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Toulouse. On ne saura que demain ce que signifie le slogan qu'on pouvait y lire sur ces pancartes. Maintenant, j'y vais. Vous avez vu ces pancartes?
Ah oui, oui, ouais. Absolument.
Maintenant, j'y vais. Mais qu'est-ce que ça cache? Vous le saurez demain. Mais moi, je le sais déjà.
C'est une publicité.
Ah, c'est une pub.
C'est une publicité pour ouvrir un compte
chez Orange.
Un compte chez Orange ou un truc comme
pas
ça.
Pas du
non
tout.
C'est une publicité pour des chiottes?
À Marseille, à Bordeaux, à Lyon.
C'est pour aller faire caca chez Paul.
Maintenant, j'y vais.
Vous êtes con, Caroline. Maintenant, j'y vais. On a vu ça à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Marseille, à Paris. 600 points de passage ont vu fleurir ce slogan. Maintenant, j'y vais. Mais où? Où? On le saura
donc
demain
c'est
matin.
C'est une pub. C'est une pub.
C'est une pub.
Il y en avait partout où ils vont
premier.
Oui.
Voilà, c'est une pub avec
un médecin.
Une nouvelle affiche. Non, pas chez le médecin. Une nouvelle affiche fleurira
c'est
demain.
C'est un restaurant?
Avec la réponse, évidemment.
C'est un restaurant?
Non, non, pas du tout.
Ah. Donc c'est le printemps.
Non, c'est pas lié au printemps. En quelque sorte, une forme de printemps, si vous voulez.
Vous avez regardé Lafayette, alors.
Non. Oh non, Michel.
Voilà, voilà des plaisanteries comme je...
Une sorte de printemps.
Une sorte de printemps, le Galerie Lafayette. Ça, c'est bien. Voilà, voilà du bon humour français. Ouais.
Maintenant, j'y vais. C'est une grande campagne, quand même.
C'est Xavier Darcos, non?
Non. Non, non, non.
Ah, c'est quelque chose...
C'est pour
que...
des vêtements?
Non.
C'est pour quelque chose, un produit.
C'est politique.
Ah. Que c'est le printemps de la gauche.
Alors, c'est-à-dire.
Ah, je vais m'inscrire au.
Au Parti Socialiste.
Non.
C'est les Verts.
Je vais m'inscrire au Parti Socialiste.
Ah oui.
Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Et Michel Bernier. Parce qu'il y a un fossé, paraît-il, entre les votes et le nombre d'adhérents au PS. Il ne serait pas plus de 200 000. Donc, une grande campagne d'adhésion est lancée par Martine Aubry. Et ils ont trouvé ce moyen de faire une campagne en deux temps. Maintenant, j'y vais. On se demande tous où. Et dès demain, oui, vous verrez, le suspense sera levé. Ce sera écrit « Rejoignez le Parti Socialiste ». Pourquoi vous vous marrez, Caroline?
Non, parce qu'on va être un peu déçus quand ça va être révélé.
Voilà.
Mais... maintenant, j'y vais. Ouh,
ouais, ouais.
Ah bah non.
Mais c'est vrai que ça rappelle une campagne pour une banque ING. Là, c'est moi, je l'ai fait. Maintenant, je l'ai fait.
Ah oui, oui,
c'est
ah,
vrai. Oui, lui, il l'a fait. Ouais. Il l'a fait hier.
Ah, c'est quoi cette pub alors? Parce que j'ai vu effectivement des affiches et je savais pas ce que c'était.
C'est pour s'inscrire, pour ouvrir un compte sur une banque
en ligne directe.
En ligne.
Ah oui, oui, d'accord.
ING.
Ah oui.
Ils sont tous en train de dire.
J'ai osé, je l'ai fait.
Ouais, ouais, je l'ai fait.
Moi, je croyais que c'était un truc cochon et tout.
Moi aussi, tout le monde. Tout le monde pense à ça.
Moi, je l'ai fait ce matin. C'est ça.
Lui, il est trop fatigué.
Non, je sais.
Moi, j'ai pas fait depuis 3 jours.
C'est bien, ça. Alors, justement, tiens.
Lui, il est trop fatigué pour le faire.
Ah oui, est-ce que c'est bien?
Vous
ça
qui savez tout, Bonaldi, parce oui que je me demande toujours avoir une banque en ligne directe.
Pas de... Ah, ben, regardez vos frais. Regardez votre compte en banque. Et ou sinon, lisez François il y a deux jours. Ou bien n'importe quel magazine de consommateurs. Vous verrez.
François il y a deux jours, vous allez dire celui de ce matin.
Il y a les frais bancaires, c'est impressionnant. Et effectivement, les banques en ligne sont les moins chères. Et je crois qu'ING, on va faire une page de pub, elle est vraiment la moins chère. Les autres, ils vous font raquer tout avec des trucs dans le style. On vous propose un pack dans lequel vous n'aurez pas à payer le reste. Oui, bien mais sûr, tu payes tout.
Oui, mais on n'a pas une guichetière ou un guichetier.
Ah non.
Guichetier.
Et qu'est-ce qu'on a à foutre de la guichetière? De
faire
la queue.
Faire
la queue pour aller chercher.
Dis donc. Pour aller chercher. Ma sœur, les guichetières, t'as un truc à dire.
À quoi ça sert une guichetière? Faire la queue pour aller chercher ton chéquier qui est pas encore arrivé. Oui, excusez-nous, revenez demain.
Ton coffre, tu le mets où?
Ah oui, le coffre.
Hein? Parce que quand tu mets ta cocaïne dans ton coffre, t'es emmerdé parce que c'est bien d'avoir une banque en ligne, mais une ligne en banque, c'est bien aussi.
Et les horaires.
Tout ça pour ça, je rêve.
Oui, mon cher.
Ah putain, le détour.
Ah mon Dieu.
Et les horaires.
Mais c'est pas moi qui. Non, ça serait vraiment un long périple si j'avais inventé la question.
Ouais. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite. Non, va gêner.
Qui serait un descendant du premier empereur de la dynastie Ming, l'empereur de Zhu Yuanzhang, si on en croit le Figaro?
Est-ce que c'est quelqu'un qui a des traits asiatiques ou est-ce que c'est drôle et que c'est quelqu'un
alors,
pas du
nous,
tout?
C'est un sportif.
On nous dit qu'il y aurait des ressemblances troublantes entre les deux hommes
physiques.
C'est un
sportif.
Oui, un sportif.
Footballeur.
Monsieur. Footballeur, monsieur de Kersauzon.
Oh ben ça va, maintenant, démerde-toi avec le reste. Non. Attends, un footballeur qui fait asiatique?
Ben oui, en tout cas, c'est ce que nous dit
Beckham.
Arnaud Delagrange.
J'ai une idée. Footballeur qui ressemble à Stevie.
Nasri.
Absolument.
Qui joue en Angleterre maintenant et qui joue à Marseille avant.
Oui, tout
pas
à
du
fait.
Tout, c'est pas lui.
Il y joue en France? Enfin, il est français?
Il est français, mais il joue pas en France, effectivement.
Il joue en Allemagne.
Ça doit être vrai, parce que c'est Arnaud Delagrange, le correspondant du Figaro à Pékin.
Franck Ribéry.
Pour dire des conneries,
Franck Ribéry, bonne réponse de Caroline Diamant.
En football, elle est imbattable.
Il serait le descendant de qui alors?
Alors, Franck Ribéry serait le descendant. Et d'ailleurs, il s'est bien cassé la gueule en descendant. Non, c'est vrai.
Non, parce que je me suis dit. Non, parce que je voudrais imaginer. À l'époque, ils n'avaient pas de miroir.
Il n'y a rien de chinois, Ribéry.
Mais non, il n'a rien
de chinois. Si, mais si, peut-être qu'il a voulu se faire.
C'est écrit.
Alors, c'était il y a très, 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 très longtemps.
C'est
alors
à la une du Figaro. Bah
ouais, l'empereur Ming, c'était il y a quelques temps. Ouais.
C'est l'histoire du jour. Quand un roi du foot descend d'un empereur de Chine. Moi, je vous lis le papier. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, vous commentez. Si vous voulez, moi je vous lis le papier, voilà, c'est écrit dans le journal.
Ouais.
Voilà que l'on apprend que ce diable de Franck Ribéry aurait du sang chinois dans les veines. Et pas n'importe lequel, puisqu'il serait le descendant d'un empereur. La filiation, reconnaissons-le, n'était pas évidente. Vous voyez, il le reconnaît.
Ah ouais, ça ah c'est quand bien. Même, ouais.
Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, il me rappelle un empereur chinois. Comment vous l'appeliez déjà, ce type Zhongin? Non, mais c'est au grotesque.
La nouvelle égaye les pages du site internet du très sérieux Quotidien du Peuple. Vous voyez, donc ça vient de Chine, hein, l'info. Le journal officiel du Parti communiste chinois rapporte que tout est parti d'une interview donnée par le footballeur à la presse allemande, dans laquelle il dit avoir peut-être du sang chinois. C'est lui-même qui l'a dit, Franck Ribéry, qu'il avait du sang chinois, parce que le jour où il a pris le pare-brise en pleine gueule, c'est chinois qui l'a renversé.
Je pense qu'il a pris la grande muraille dans la gueule. Ouais.
L'un de ses cousins aurait découvert que l'histoire d'un de leurs ancêtres ressemblait étrangement à celle de Zhu Yuanzhang, premier empereur de la dynastie Ming. Chassé du trône, ce dernier aurait fui vers la Perse, puis l'Europe, jusqu'en France.
Je suis sûr que c'est vrai, ça.
Deux experts chinois estiment l'histoire très plausible. L'un d'eux voit même de troublantes ressemblances entre Zhu Yuanzhang et Franck Ribéry. L'autre ajoute, son profil, sa joue et son os maxillaire sont plutôt rares parmi les Européens. Eh oui. Et il y aurait en plus signe supplémentaire des antiquités. Alors c'est vraiment le comble du con là.
Il y aura un vase Ming
chez lui. Avec la gueule de Ribéry sur le...
Non, mieux que ça. Il y aurait des antiquités chinoises dans la maison du footballeur à Munich.
Ça trompe pas. Ah ouais. Moi je croyais que c'est comme les paquets de, tu sais, les paquets de céréales avec la gueule du footballeur.
Et non, attention, c'est la loi du sang qui circule dans ses veines.
Mieux que ça, certaines coutumes de la famille Ribéry évoquent le folklore chinois.
Quel genre?
Il a des petits pieds.
Ouais, genre il va bouffer au resto chinois le week-end. Quoi.
On nous en dit pas plus.
C'est tout. On va nous dire qu'il aime beaucoup.
Comment s'appelle l'auteur de l'article qui est viré dès demain matin?
Correspondant à Pékin, Arnaud Delagrange.
Le mec qui doit justifier qu'il est correspondant à Pékin. Il a rien trouvé.
Je veux partir. Le pays du monde où il se passe le plus de choses.
Je veux rentrer à Paris.
Il lit le quotidien du peuple.
La fin de l'article est pas mal parce qu'après avoir dit des antiquités chinoises dans la maison de la star du Bayern de Munich et certaines coutumes de la famille Ribéry évoquent le folklore chinois. Et là, il y a un point. Là, virgule, on se prend à rêver en imaginant une soirée familiale à Boulogne-sur-Mer.
T'as raison.
Parce qu'il vient de Boulogne-sur-Mer, Ribéry.
Ce qui est très marrant, c'est que tous ces types qui descendent, ils retrouvent des gens, c'est jamais des prolos, leurs ancêtres, c'est toujours des empereurs.
Vous n'avez pas cherché, vous, dans votre arbre généalogique
Oui, c'est du prolo.
Et vous, ils remontent jusqu'à quand, les Kersauzon, alors, Olivier?
Troisième étage. Troisième étage.
Non,
ça vous regarde pas. Que ça peut...
ça nous intéresse de savoir qu'il y avait dans ton arbre.
Je suis sûr que... Non, mais moi, je suis sûr que
ça va. Ça va, vous...
Moi, je suis sûr que comme Ribéry, on doit retrouver. Je suis sûr que chez vous, par exemple, dans votre dans votre manoir, doit y avoir un vieux portrait, j'imagine.
Non, mais il y a des Chinois dans ma famille.
Un vieux portrait
de l'amiral, son grand-père.
Une vieille toile d'un corsaire.
Vous allez dire une vieille tante.
Est-ce que les Kersauzon
d'un pirate
avec les yeux qui bougent.
Pas en 1232.
Non, j'imagine ça. Ouais.
Avouez que vous avez ça, Olivier. Avouez. Vous avez ça ou pas?
Est-ce que les Kersauzon sont à l'annuaire de la noblesse française?
Non.
Vous n'êtes pas à la NF.
Pas du tout.
Même Giscard dit de lui, c'est un parvenu, je te dis.
Non, moi je suis sûr, il y a des vieux tableaux de Kersauzon.
Il y a des jeunes tableaux aussi.
Ça remonte jusqu'à quand?
Il y a moi en statue équestre.
Ah oui?
Oui.
Oh, tu peux nous l'amener.
Pas par mes gens. Et c'est un tableau qui me représente, ça fait 4 mètres de haut sur 3 mètres de large.
Il y a vous et Christian Digier comme ça. Allez, d'autres questions après 17h.
Laurent Ruquier sur Europe 1.
On va se gêner.
Caroline Diamant, Michel Vernier, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi. C'est la deuxième heure. On va se gêner. Bonjour Michel, bonjour Kamel.
Bonjour Laurent.
Michel est à la crèche dans les Deux-Sèvres.
Oui.
Oh, il y a de la friture sur la ligne.
Ah, pourtant, non. J'ai pas de portable, normalement.
Vous avez peut-être une friteuse.
C'est où la crèche?
La crèche est à une quinzaine de kilomètres de Niort, le chef-lieu des Deux-Sèvres.
Très bien, parfait.
En Poitou-Charentes.
Et vous
êtes station de ski.
Vous faites quoi, vous, là-bas?
Je vous écoute.
C'est pas mal.
Non, mais pour l'instant, je n'ai pas d'activité professionnelle et je profite de mon temps libre.
Vous n'avez pas l'air de trop chercher non plus. Là.
Non plus. Hein. J'approche de l'âge de la retraite, donc je ne vais pas chercher maintenant.
Et vous avez un mari qui gagne...
J'ai un mari, voilà, exactement.
Qui gagne de l'argent.
Voilà. Vous avez tout compris.
Il rapporte bien.
Voilà, exactement.
Bon, c'est net.
Kamel est à Saint-Herblain, près de Nantes, en Loire-Atlantique. Ah. Bonjour, Kamel.
Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Et vous avez une activité, Kamel?
Oui, chauffeur-livreur.
Ça m'intéresse toujours. Qu'est-ce que vous livrez?
Des colis.
Ah oui.
Mais alors, quel genre de colis?
Il y a quoi dedans?
Petits colis. Ça dépend. C'est des petits colis.
Des gros colis, des moyens colis.
Voilà,
des gros colis.
Des gros colis.
Des gros colis.
C'est un gros camion ou une petite camionnette?
Petite camionnette, on va dire.
Saint-Rémy de Provence vous attend. Michel, ou vous, Kamel, 3 jours, 2 nuits, dans l'hôtel 4 étoiles, Vallon de Valrug, entre Arles et Avignon, au cœur de la vallée de Beau, dans le parc naturel régional des Alpilles.
Ça, c'est beau là-bas. Hein.
Quand vous ouvrirez les fenêtres de votre chambre provençale, vous découvrirez... Vous découvrirez la beauté des alpilles et des oliveraies.
C'est la ferme.
Vous disposerez d'un sauna, d'un jacuzzi, d'un tennis,
d'un poisson rouge,
d'une très belle piscine, Michel et Kamel. Mais pour ça, il faut me dire à quoi sont candidates les villes suivantes. 7 villes sont candidates: Lyon, Grenoble, Pau, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Nancy, Montbéliard et Paris. À quoi sont candidates ces 9 villes?
Vous avez dit 7.
7 villes. J'ai dit 9, sûrement pas.
C'est un concours de bouffe?
Concours de quoi? De...
Ah bah, c'est la question. De quoi? C'est la question, ça, Kamel.
Pour les Jeux Olympiques de 2016.
Non, les Jeux Olympiques à Montbéliard, vous voulez que je vous dise?
Non, si c'est un concours de saucisse, c'est Montbéliard qui gagne.
Oui.
C'est
pas un problème.
Lyon, Grenoble, Pau, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Nancy, Montbéliard, Paris.
Mais c'est pour la nourriture?
Non.
C'est un rapport avec Interville. Le Tour de France?
Qu'est-ce que vous dites, Michel?
Interville,
du tout.
Interville à Paris.
Et ma question, encore. C'est un rapport avec le Tour de France?
Non plus.
C'est un festival.
Paris, c'est jamais dans le Tour de France.
Ben non, c'est un rapport lointain avec le sport. Le sport?
C'est sportif.
C'est pour accueillir un... Ah non, oui, c'est sportif.
C'est un genre de marathon.
7 villes se sont portées candidates.
Pour accueillir.
Ça se passera les 9 et 11, enfin entre le 9 et le 11 juillet prochain.
Pendant la Coupe du Monde,
c'est
alors.
Pas encore décidé. C'est
entre le 9 juillet et le 11 juillet 2010?
Oui.
La Coupe Davis, le quart de finale de la Coupe Davis.
Entre?
Entre la France et l'Espagne.
Et ben voilà, Michel.
Ouais, Michel.
Bah, ça profite.
Bah pourquoi vous n'y croyez pas?
Bah parce que je suis pas trop branchée sport.
Bah oui, mais pourtant c'est vous qui partez à Vallon de Valrugue.
Voilà, c'est génial.
Et qui ne reviendrez jamais.
Super contente.
Oui.
J'étais surtout très contente de vous avoir eu et j'étais très impressionnée, mais bon.
Bah mais ça y a de quoi quand même.
Bah oui, parce
avec
que...
les personnalités qu'il y a aujourd'hui.
Ah bah absolument. C'est la fine fleur des chroniqueurs aujourd'hui.
Oui, wow. Ça je dois dire à quelques exceptions près.
Non mais ça va être des quarts de finale importants parce que France-Espagne, je sais pas si vous vous rendez compte que l'Espagne c'est quand même une des meilleures nations du tennis en ce moment, avec Nadal en tête évidemment, et des quarts de finale de Coupe Davis France-Espagne, ça va être suivi entre le 9 et le 11 juillet prochain. Pour l'instant c'est pas encore, c'est dans les jours qui viennent là que ça devrait être décidé par la Fédération française du tennis, qui décidera si c'est à Lyon, si c'est à Grenoble, à Pau, à Clermont, à Strasbourg, à Nancy, à Montbéliard ou à Paris, Bercy. Éventuellement, parce que les joueurs ont le droit de choisir leur surface. Et je crois qu'ils ont choisi une surface dure.
Donc Bercy, c'est possible.
Pour affronter les Espagnols.
Et oui, puisque les Espagnols sont les meilleurs en sur terre battue, comme chacun sait.
C'est vous, en tout cas, Michel, qui pourrez jouer au tennis, puisqu'il y aura un tennis là-bas, à l'hôtel Vallon de Valrugue. Vous jouez?
Non, mais vous avez parlé de piscine, ça m'intéresse beaucoup.
Eh bien, vous jouerez au tennis dans la piscine aussi, voilà. Si vous le souhaitez. Un hôtel 4 étoiles vous attend 3 jours, 2 nuits, dans le parc naturel régional des Alpes. L'hôtel 4 étoiles Vallon de Valrugue de Saint-Rémy-de-Provence est pour vous.
Merci beaucoup.
Il ne vous reste qu'aujourd'hui, limite demain matin, pour pouvoir regarder ça dans les stations de métro. De quoi s'agit-il?
Métro parisien.
Dans le métro parisien.
Parce que vous êtes très parigot de tête de veau quand même.
Dans les stations Saint-Lazare, Champs-Élysées, Clémenceau, c'est... Concorde, Opéra.
Une exposition.
Pardon, hein, cher Jérôme Bonaldi, mais il se trouve que c'est dans le métro parisien. Alors je vais
vous
dire.
Il y a tous les gens métro. Dans le métro, les Lillois, les
Rouennais. Quand on lit dans le métro, c'est parisien.
Une exposition.
Pardon.
Une exposition.
Elle vous demandait si c'est une exposition.
Est-ce que c'est une exposition?
Demandez-lui pourquoi elle me parle. Elle a été virée en début d'émission.
Qu'est-ce que tu fais encore là?
Il y a Caroline qui voudrait savoir si c'est une exposition.
Qu'est-ce que vous appelez une exposition?
Je vais appeler demain, je vais dire bonjour, je suis Caroline Diamant, je suis poleuse.
D'ordre culturel, non en tout cas.
C'était ça ma question.
Alors, c'est dans certaines stations, vous disiez.
Oui, c'est sur quelques lignes du métro parisien.
C'est exposition.
Ouais. Dans les stations.
Alors, jusqu'à mercredi, c'est-à-dire jusque demain, sur plusieurs lignes de métro, on pouvait faire quelque chose.
Il faut descendre sur les quais.
Pardon ?
Il faut descendre sur les quais.
Oui.
Est-ce que ça a un rapport avec la chanson ?
Quelle chanson ?
Eh bien, par exemple, vous savez, parfois, ils font chanter des groupes sur les quais de...
Ah, le casting de la RATP, ouais. Ça, c'est une question à laquelle on a le droit tous les ans, et cette année, je me suis dit non.
Ok.
D'accord. Est-ce que c'est... Si vous changez vos habitudes...
Est-ce que c'est là où il y a les affiches, 4 par 3 ?
C'est-à-dire ?
Est-ce que c'est à la place des affiches ?
Non, c'est sur le quai.
Sur le quai.
On a remis des poinçonneurs.
Non.
Est-ce que c'est l'histoire des meubles Ikea qu'ils ont mis en bas des publicités Ikea?
Bonne réponse de Jérémy Michalak. Pas n'importe quel meuble.
Ouais, les canapés.
Des canapés, on pouvait s'asseoir dans des canapés sur certains quais du métro parisien depuis quelques semaines. C'était une opération test d'IKEA. Et jusque demain, on pourra encore s'asseoir sur ces canapés dotés d'une garantie de 10 ou 25 ans. Voilà pourquoi on avait mis ces canapés dans le métro, pour montrer, pour prouver qu'ils étaient résistants.
Et alors, ça a marché?
Alors, je sais pas dans quel état ils sont, les canapés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ces canapés dans le métro?
Est-ce qu'on peut les acheter en solde?
Parce que s'ils les changent la nuit, genre,
on a personne qui prend le métro dans notre public. Donc, on a vraiment que des riches à Europe.
Ouais, ils sont tous blindés là.
C'est incroyable ça alors, pour des chômeurs.
Non, mais c'est beau. C'est des provinciaux peut-être,
mais
aussi.
C'est vrai, c'est fou ça alors.
Mais c'est pas des chômeurs, c'est des grévistes.
Personne prend le métro ici, alors j'en reviens pas.
Mais je croyais qu'on avait supprimé au contraire tous les sièges dans sur les quais du métro pour ne pas que les gens.
Ça fait longtemps qu'il a pas pris là, hein, quand
plus
même.
Plus agglutiné et tout ça.
Si, si, il y a des sièges.
Il y a des sièges, non seulement des sièges, et même maintenant des canapés prêtés donc.
Il y a des sièges quoi, les clochards peuvent s'asseoir.
Non mais ça.
Ah, bah, bravo.
Ils font des sièges baquets de façon à ce que ce soit difficile. De s'allonger. Ils font aussi des sièges assis debout, de façon à ce qu'on ne puisse pas s'allonger. Tu verras, c'est moderne. Il n'y a plus de première classe, hein, depuis. Tu verras aussi.
Là, c'était
ça fait une vingtaine d'années, ça.
C'était une opération marketing pour découvrir, faire découvrir les nouvelles collections de la marque. Station Saint-Lazare, Champs-Élysées, Clémenceau, Concorde ou Opéra. Si vous voulez vous asseoir sur un canapé Ikea, ils sont encore sur les quais jusque demain.
Ça fait une bonne distraction pour cet après-midi, hein. Ouais, on va aller s'asseoir sur le canapé Ikea pour dans regarder le métro passer. Là, je bande. Je ne devrais pas le dire. Je devrais pas le dire, mais je bande.
C'est vrai que ça fait rêver.
Non, mais moi, à ta place, je dirais dès maintenant, parce que le temps de monter ton canapé,
imaginez la gueule
t'asseoir dessus. Il donne le truc et on s'en quitte, hein.
Olivier, vous ne prenez pas le métro, donc évidemment.
Non, mais ça, je trouve ça passionnant.
Ça peut pas vous intéresser, mais
pour ça passionnant.
Il a gagné le tour du monde à métro, lui.
Pour ceux qui le prennent, le métro, plutôt que d'attendre debout sur une chaise en plastique, pas très confortable, un bon canapé moelleux
sur lequel ils s'endorment épuisés après une journée de labeur harassante, et ils ratent leur métro, ils peuvent pas rentrer chez eux, ils sont obligés de rentrer à pied, après on les trouve dans la rue, on leur fout en garde à vue, qu'ils ont rien à foutre là, à cette heure-là, vous croyez que c'est une vie, ça?
C'est vrai.
Faut pas aller dans le métro.
C'est vrai, vu comme ça, effectivement. Mais bon, voilà, c'était un petit coup de pub, Jérôme Bonaldi aime ça.
Moi, j'aime bien, en plus.
Voilà,
ça égaye.
Bonaldi, il aime bien les mecs qui lui bloquent la voiture, il aime bien tous les trucs anormaux, lui.
Dès qu'il voit un éboueur, il lui baisse la main.
Dès qu'il voit un éboueur, il lui baisse les mains. Attends, il est bizarre. Les éboueurs dans la rue de Bonaldi portent des gants pour pas avoir les mains mouillées. Tellement il est, attends, faut arrêter là. C'est bien, les canapés Ikea dans le truc du métro. Mais c'est honteux.
Ça change.
À Concorde, il devrait y avoir des meubles Louis XV. Voilà. Pas du canapé Ikea qui est quand même tout à fait vulgaire à certaines heures. Parce que le canapé Ikea est caractériel. Il est beau de telle heure à telle heure. Puis il change de. T'as jamais vu un canapé Ikea vers 2h du matin, la tête qu'il prend? Il est pas rasé et tout. Il est infect et tout. Il sort sous les dossiers et tout ça.
Là, tu gagneras toujours ta vie à la radio, toi, parce que vraiment. Alors, pour dire des conneries comme ça, le canapé Ikea, monsieur, ne change jamais. Moi, j'ai des canapés Ikea dans ma famille. Je peux pas dire exactement qui c'est. Qui a des canapés Ikea, ben, je veux dire, ils ont un intérieur propre, hein. C'est pas comme d'autres. N'est-ce pas, Kersozon?
Mais t'as même pas de famille, de toute façon, là, je vais dire.
Je voudrais vous signaler la réapparition.
Je sais que t'as pas de famille. Moi, je connais des mecs, un jour, t'avais dit qu'ils étaient de ta famille, et ben après, ils m'ont écrit. Non, non, je t'en prie, crois pas. Ça, écoute, il m'y donne, c'est qu'un salon, on fait semblant pour lui faire plaisir.
ma famille, elle remonte à Charlemagne, moi.
Ouais, bah,
parce que tu connais pas la Bretagne.
Je sais pas par quel égout. Non, mais t'as pas de famille et puis personne ne t'aime en plus. Voilà, je voulais te le dire. Faut que tu le saches.
T'as raison.
Casse-toi dans le métro, va sur le canapé et dors. 3 litres de rouge pour oublier.
Pierre, rarement je vous ai vu vous laisser faire comme ça.
Je me laisse pas faire, il a raison. Il a raison, mais je trouve qu'il va un peu profond, là.
Quel club va faire sa réapparition pour son 30e anniversaire alors qu'il avait disparu et on n'en entendait plus parler?
Le PSG?
Non. C'est pas mal.
C'est un club de foot?
Non.
C'est un club sportif, quand même.
C'est pas un club sportif.
Ah. Un club de yachting?
Un club
méditerranéen?
Un club échangiste?
Non.
Un club
de golf?
Non. 30e anniversaire l'an prochain de ce club dont on n'entendait plus parler.
Un club de musique?
Oui.
Le Buch Palladium dans le genre, le
non.
Club Drouot.
Non, un club, une boîte,
le club,
non, oui. Pas le Club Dorothée,
le Golf Drouot.
Pardon.
Le Club Dorothée.
Non.
Le Golf Drouot, non, c'est
non.
Pas ça.
Non.
La Main Jaune.
Mais Club Dorothée, c'est pas bête, vous voyez. C'est ouais. Pas ça.
C'est un endroit.
Non.
C'est une émission.
Non.
C'est une association de gens.
Le Club des Poètes.
Enfin, je veux dire des chanteurs,
oui.
Des musiciens.
Vous voulez dire un groupe.
Oui, oui.
Voilà, par exemple.
Le genre, Club des
Cinq. Culture Club.
C'est ça.
Culture Club, bonne réponse.
Il y a 30 ans déjà.
De Jérôme Bonaldi, Culture Club. Oui, qu'est-ce que c'est Culture Club, Olivier de Kersauza?
Ah non, ça, excusez-moi.
Boy George. C'est pas un copain à vous, Boy George?
C'est vrai mais... qu'il a un côté fan de Boy George.
Non, mais Boy George, il est boueur un peu. C'est pas un copain Bonaldi,
c'est vrai,
hein.
Il est.
Boy George, quand même,
ça
Olivier, qui a chanté Do You Really Want to Hurt Me?
Déjà 30 ans.
C'est le retour de Culture Club pour le 30e anniversaire.
Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier, avec lui aujourd'hui Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Olivier de Kersauzon, Jérémy Jojo Michelac et Caroline Diamant.
Europe 1, On va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado.
Bonjour Serge.
Bonjour Laurent, salut à tous.
Ah, j'ai un petit message sympathique signé Cyril, un auditeur qui dit « Merci Monsieur Serge, vous m'avez cloué le bec. C'est moi qui suis le petit malin qui avait l'autre jour signalé à Monsieur Titoff qu'il se trompait à propos de la chanson La Montagne en citant Dieu parce que Jean Ferrat n'avait jamais cité Dieu. Et hier, vous m'avez prouvé que non, Jean Ferrat avait beaucoup utilisé Dieu dans ses chansons. Je me suis calmé, ça m'apprendra à ouvrir ma gueule, dit Cyril. » Qui vous est finalement reconnaissant, vous voyez.
Moi, j'ai bien écouté votre émission hier, chers amis d'Europe 1. Eh bien, je trouve que la démonstration de notre ami Serge, et Dieu sait que je l'admire, est absolument nulle, parce que il ne dit pas du tout. Quand on dit « mon Dieu, que la montagne est belle », ça veut dire « mon Dieu » en parlant à Dieu, tandis que là, il cite Dieu, mais il dit sans arrêt des trucs qui sont... tout à fait offensante pour Dieu. Il n'est pas du tout. Il dit le mot Dieu, mais il ne le dit jamais. Et Dieu, qu'on aime bien, il dit Dieu sait qu'il y a du monde. La Sainte Vierge des Églises, il dit pour bien montrer qu'il en est loin. Oui. Pas du tout, il y a beaucoup de défiance sur Dieu. Ah non, sur Jean Ferrat, vous n'allez pas commencer à me faire.
Ah,
mais...
De toute façon, puisque vous voulez ramener votre culture, Pierre Bénichoux, vous allez pouvoir le faire. Puisqu'aujourd'hui, Serge va vous tester avec des citations. Des phrases célèbres, quatre auteurs et puis une personnalité qui ont prononcé des phrases célèbres, reprises ces phrases par différents chanteurs. C'est bien ça, Serge ?
Voilà, c'est ça. Alors, évidemment, il y en a cinq. Vous êtes à peu près autant de chroniqueurs. Ça serait bien que chacun trouve la sienne, sa solution, et que Pierre ne fasse pas le grand chelem, parce que je crois qu'elles sont quand même assez faciles.
Assez faciles, c'est parti.
1. Vous
qui sentez ces serpents qui sifflent sur nos têtes.
La bête aux 12 pieds qui marche sur la tête.
Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes?
Vous êtes lent, lent, lent dans vos vieilles godasses.
2.
Pardon, quelque part où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Nous oppressés, l'on méritait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes.
3.
Le sang du corps, le soir au fond des bois.
Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois.
Le cœur danse quand même, le soir au fond des bois.
Le soir au fond des bois.
J'aime le sang du corps, j'aime le corps du sang, j'aime le sort du con le soir au fond de moi.
4.
Les cimetières sont pleins de gens.
Irremplaçables. Hé, qui s'est déjà dit?
Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables.
5.
Et cette vie qui fut la mienne, il me semble que tu l'entraînes à la semelle de tes souliers.
Semelle de leurs souliers.
Oula, c'est pas si facile que ça. Oh. On va y aller un par un. Et comme vous me l'avez suggéré, cher Serge, je vais vous obéir. Je me tourne d'abord vers Jérémy Michalak pour la première phrase, interprétée par Claude Nougaro et Alain Souchon. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes?
Je ne sais plus.
Caroline?
Bernanos?
Non.
C'est Racine, évidemment.
Oui. Racine, bravo Pierre Bénichou.
Racine. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes, à qui destinez-vous l'appareil qui vous suit?
Dans Andromaque et non pas Phèdre. Andromaque. Bravo. Deuxième citation, je me tourne vers Jérôme Bonaldi.
Oh ben on en a parlé tout à l'heure, c'est Aldous Huxley?
Non. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est Tété Musion et l'affaire Louis Trio qui chantait, mais de qui est cette phrase? Alors, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Est-ce que c'est pas la page 52 de tous les albums de Tintin?
Non.
Non, c'est tout est bien. Tout est bien qui finit bien.
Alors, c'est un philosophe très célèbre du 18e siècle. Je ne me souviens plus son nom. Et d'ailleurs, la vraie citation, c'est...
Jean-Jacques Rousseau.
Tout non. est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible.
Alors, pas Rousseau,
Voltaire,
mais l'autre.
Voltaire.
Ouais. Bravo. La troisième citation, chantée par Armand Mestral, Nino Ferrer, Hervé Christiani, Charles Trenet. On a même entendu Raymond DeVos. J'aime le son du corps le soir au fond des bois. Caroline.
Victor Hugo.
Non. Michel.
Aucune idée.
Jérôme.
Martine.
Non.
Le soir au fond des bois, Jean-Pierre Trébert.
Non.
Heredia. Est-ce que ça serait pas José Maria de Heredia?
Non. J'aime
on est un peu dans les Parnassiens, là, quand même.
Hein. Du corps le soir au fond.
Pas la Martine.
Non, non, non. Non.
Oui, de la biche aux abois.
Roncevaux.
C'est là où vous allez jouer au poker.
Roland. Roland. Est-ce que c'est pas Roland de Ronce? Roland.
J'aime
c'est
le là où
vous c'est avez... Alfred de Vigny, évidemment.
Oui. Alfred de Vigny. C'est là où vous jouez au poker, il trouve Alfred de Vigny. Ah, dis donc, bonjour la culture.
C'est marrant que Alfred de Vigny, qui est sans doute le poète français le plus parfait, ait fait des vers aussi nuls que j'aime le son du corps le soir.
Oui, surtout que c'était une contrepétrie en plus.
Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. C'est Alain Leprest et Michel Fugain qu'on a entendu chanter cette phrase. Mais de qui est cette phrase?
Clémenceau.
Georges et... Clémenceau. Bravo, Jérôme Bonnet. Bonaldi, Jean Ferrat, Corneille et Serge Lama ont interprété. Vous n'aviez mis qu'une partie de la phrase, hein, Serge.
Et j'ai jamais réussi à la trouver en entier. Oui.
On n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers. Qui a prononcé cette phrase?
Danton.
Danton. Waouh, bravo, Pierre Bénichou.
Savez-vous pourquoi il a dit ça? C'est quand les émigrés sont partis, toute la noblesse a fui la France au moment de la chose, qui sont allés en Angleterre, en Autriche, partout. Ils ont dit, c'est notre pays. Ils ont dit, non, on ne porte pas la France, la patrie, la semelle. C'est
voilà, on lui conseillait de fuir lui aussi. Oui. Et Danton a dit, non, je ne partirai pas. On n'emporte pas la patrie, la semelle. Non, c'est beau.
Moi, je suis très fière, j'ai fait un zéro bonne réponse.
Ouais, moi, ça fait.
C'est le grand gelé.
J'avais trouvé Racine.
Olivier bon. Aussi, vous auriez pu faire un effort quand même. Franchement, j'aime le
son. Ben là, on peut dire qu'honnêtement, je ne l'ai pas fait. Là, il s'agit d'une probité qui m'honore.
J'aime le son du corps le soir au fond des bois. Ça, c'est pour vous, le côté, vous voyez, nature, champêtre.
C'est ça, avec ma moustache. ma camionnette, en écoutant du folk. Hein.
Son menhir.
Non mais j'imagine dans votre manoir que vous jouez du corps le soir.
Non, on joue pas du corps, on sonne.
Ah oui.
Oui. Ouais, c'est pas pareil.
Ah bon. Alors ça
c'est les trompettes.
Ça c'est du gazou. Ça.
C'est plus un corps, c'est grand corps malade.
Voilà, ça c'est. Un petit corps.
J'ai jamais soufflé dans un corps. Enfin bon.
Oh. Ben, ça dépend. Joujou, ça fait quoi?
Non. Ben, ça fait pas de musique, j'ai essayé.
Ben, la prochaine fois, essayez au lieu d'aspirer.
Oh non, non monsieur de Kersauzon, je ne vous permets pas.
Mais tu préviens avant quand même.
Ah, franchement, non mais vous avez déjà dû vous souffler dans un corps, non
bien,
dans l'instrument, je pense.
Oui, bien sûr.
Alors,
bien sûr.
Ça doit être très difficile de faire sortir un son, j'imagine.
Non.
Non mais. J'adore le côté qui essaye de souffler.
Ouais. C'est une question de.
Mais non, mais vous avez déjà essayé de souffler dans une trompette?
Quand tu dois le savoir. Quand tu dois le savoir, c'est une question de lèvres et de langue.
De quel instrument vous jouez, vous, Caroline?
Moi, je joue du piano.
C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Sérieusement?
J'ai fait 10 ans de piano.
Oh là là.
Oh, je te dis ça, j'ai fait 10 ans de piano.
Ah non, attendez, alors là, attendez.
Ah non,
est-ce que vous pouvez enlever la housse de ce piano?
Ah oui,
on veut savoir.
Tu vois, t'aurais dû du triangle, on te foutait.
On a bien un micro à chef là pour s'approcher.
Voilà. Ah non, je peux mourir.
Ah non, Carolina, bah non. Ça, vous êtes obligé.
Ah non.
Ça doit être merveilleux.
Pierre, au moins pour une fois qu'elle sait faire un truc.
Tu veux que je joue sur le piano pour faire le métronome?
Alors voilà, allez-y. Ah non, ça, Caroline, je l'ignorais.
Attention, parce que la fois qu'elle sait faire un truc, elle tombe sur les fesses. Elle sait patiner, elle tombe. Faites attention.
Peut-être que, Olivier, vous pourriez nous annoncer ce moment de musique classique. C'est-à-dire que Europe 1 va se transformer en radio de musique classique pendant 2-3 minutes. Est-ce que vous pourriez annoncer ce grand moment pendant que Caroline rejoint ce piano?
Caroline Diamant, la blonde musicale, un moment exceptionnel, un doigté de fée. Vas-y, grosse vache.
Ça, c'est Obispo quand il se trompe.
Je la regarderai avec un autre œil, moi.
C'est incroyable.
Elle joue bien du piano. Ouais. Forte, hein. Elle est bonne.
Ah non, bravo, Caroline.
Ouais. C'est formidable.
Alors, moi, tu leur as touché un coin, je vais te dire.
On cherchait ce que vous saviez faire depuis des années. On vient de trouver quand même.
Non, mais tu te rends compte avec cette chose formidable que tu sais faire. Tu saurais lire et écrire, tu serais formidable.
Allez, on se retrouve dans un instant. Merci Caroline Diamant.
Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. On est bien tous ensemble. C'est la suite dont la gêne retrouve Laurent avec ses complices et la talentueuse, il faut le dire, hein, Caroline Diamant, qui nous a interprété un très très bel extrait au piano.
Il y a peut-être d'autres trucs que vous savez faire, Caroline Diamant, maintenant que vous nous faites découvrir. Qu'est-ce qu'il vous a encore dit dans l'oreille, Kersozon?
Je sais pas. Alors, qui revient régulièrement, il aimerait bien se reposer entre mes seins. À chaque pause, en fait. Mais c'est t'as des seins fumeurs?
Il est ignoble, ce Kersozon, parce que vraiment, c'est le seul qui ose le dire. C'est ça qui est pas bien.
Pierre est très jaloux, parce que déjà, c'est vrai, il vous a fait la gueule, Pierrot, parce que vous êtes assise à côté d'Olivier aujourd'hui, plutôt qu'à côté de lui. Et c'est vrai.
Je suis ravi parce qu'elle est bien remplacée par quelqu'un de drôlement plus joli, drôlement plus intelligent, drôlement plus drôle. J'ai nommé Michel.
Ah, c'est vrai qu'en termes de poitrine, on est gâtés.
Au niveau nichon, je suis même un peu plus exposée que Caroline.
Mais il n'y a pas que les nichons dans la vie, il y a aussi la bite et les couilles.
Ah, mais oui, c'est vrai. On oublie nos amis.
Non, mais Caroline, vous m'avez là épaté, je dois dire.
Ah ouais, non, mais je voudrais remercier ma maman qui... Ne me regarde pas quand tu sors.
On a l'impression qu'elle vient d'avoir une victoire de la musique. Là.
Mais non.
Je voudrais remercier ma mère, mon prof
voilà,
de piano.
J'ai eu la chance qu'elle nous fasse prendre des cours de piano, des cours de danse.
Tu remercies ton producteur aussi.
Bien sûr.
Ton attaché de presse. Mon attaché de presse. I would like to thank all the members of the Academy Award. C'est un Oscar que j'ai gagné là, c'est ça?
Ouais, un Oscar pour la musique. Ouais.
Non, voilà. J'ai... Non, mais c'est gentil, voilà, quand on a les moyens de nous faire...
On peut pas faire un plat pendant deux plombs, mais tu joues trois notes. Hein.
Mais non, non mais voilà.
C'est un Oscar.
C'est une chance.
Comprenez mon émotion. On se moquait de toi.
Mais non, mais c'est une chance. Il faudrait essayer de jouer.
Piano, tu devras prendre le piano.
De jouer du Polnareff au corps la prochaine fois.
Non, mais Pierre, la prochaine fois que Pierre chante une chanson, vous allez au piano, Caroline, et vous l'accompagnez.
Mais du Rina Ketty, t'as appris?
Il y a longtemps.
Du Rina Ketty, t'as appris?
Non, il n'y a aucun de sortir.
Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu.
Ah non, mais oui, je ne chante plus.
Ah oui.
Non, j'ai arrêté parce que Dieu sait que j'avais un bel organe et que je chantais bien en mesure. Bon, des fois, je me trompais comme ça d'un truc, mais d'un demi-ton, mais je reprenais toujours. Vous êtes tellement moqué de moi que maintenant, je m'entraîne chez moi et je chante faux maintenant.
Non.
Bon, alors je vais vous montrer.
Qu'est-ce qui arrive à un tiers des couples ayant eu des jumeaux ou des triplés?
Ils en ont à nouveau.
Non.
Ils divorcent.
Non.
Ils divorcent.
C'est l'université de Birmingham qui vient de publier cette étude britannique.
Ils achètent une nouvelle poussette.
Non. C'est une moyenne, mais un tiers des parents de jumeaux en Grande-Bretagne, hein, ça, alors, ouais. Mais j'imagine, on peut imaginer que c'est pareil chez nous en France. Qu'arrive-t-il à un tiers des parents ayant eu des jumeaux ou des triplés?
Ils changent de logement.
Ils déménagent. Non.
Ils achètent une Kangoo.
C'est quelque chose qu'ils choisissent de faire ou c'est quelque chose
qu'ils subissent. Enfin, les deux.
Ils engagent
qu'ils subissent et qu'ils choisissent.
Ils engagent quelqu'un pour s'occuper des enfants, pour les aider.
Ils ne refont pas d'enfants.
Ils font plus l'amour.
Non.
Ils refont les peintures.
Ça, effectivement, ils finissent par ne plus faire l'amour.
Ouais.
Ils se coupent. Non, je sais pas.
Ils refont les peintures.
Non.
L'un des deux se fait stériliser.
Non. Ah non, non. Quand
même. Ils font lit à part.
Non.
Sur la fille
c'est
un peu excessive.
C'est lié aux enfants.
Enfin, je dis non. Oui, forcément, ils font lit à part. Oui.
Donc c'est lié à la sexualité.
Ils se séparent.
Ils se séparent. Oui. Ils divorcent. Bonne réponse de Pierre Bénichoux.
Mais c'est une bonne nouvelle. Sachant qu'il y a un peu plus d'un tiers des couples qui divorcent, faites des jumeaux, vous divorcerez moins statistiquement parlant.
Bah oui, puisque c'est 50% des gens qui divorcent.
Un tiers des parents de jumeaux se séparent. Bon. Contre moins... Ah mais attendez, c'est en Grande-Bretagne.
Ah bah ça change tout.
Contre moins d'un quart pour les autres parents.
Parce qu'en Grande-Bretagne, ils divorcent moins que chez nous.
Alors ça veut dire voilà, qu'en Grande-Bretagne, ils divorcent moins.
Ah, je savais pas.
Donc peut-être que chez nous, les parents de jumeaux divorcent encore plus que un couple sur deux.
C'est
que
chez nous,
tous les parents de jumeaux divorcent.
Attendez, mais ils divorcent tellement moins que nous, les Anglais.
Moi, je vais aller vivre là-bas.
Moins d'un quart pour les autres parents.
Donc, faut se marier en France, emmener son mec directement en Grande-Bretagne.
Voilà. Et faire des jumeaux. Pour avoir une chance.
Faire des jumeaux.
Mais qu'est-ce qui ferait que les parents de jumeaux triplés divorceraient plus facilement?
Bah, j'ai une vague idée, moi.
Moi aussi.
Ah oui?
Ah, peut-être vous réveiller la nuit par trois chiards. Ouais.
Pense aux parents des Bogdanov.
Non, mais c'est vrai que c'est plus compliqué.
Ah non, mais les parents des Bogdanov, ils se sont séparés avant. Ils ont été faits à l'éprouvette, c'est pas possible.
Non, ils se sont séparés dès qu'ils ont vu leur tête.
La vie amoureuse des parents de jumeaux de triplés, ça doit être un petit peu difficile.
Ah, vous croyez ça, vraiment?
Bah, déjà, avec un enfant, c'est pas toujours facile.
Mais enfin, quand même, on est tenté de rester. Oui. Ou alors, peut-être qu'on peut se séparer. Parce que...
Et en prenant chacun.
C'est facile de se séparer, on en prend à chacun.
Voilà, oui,
quelle horreur.
C'est ça, séparer.
Non, mais tu peux pas les séparer des jumeaux normalement.
Comment ça, tu peux pas
les séparer? Ils peuvent pas vivre séparément, des gens les habillent pareil.
Ça dépend s'ils sont du même œuf ou pas.
Tu sépares pas des frères et sœurs, enfin quelle horreur.
Ça dépend des deux, parce qu'il y en a tant qu'ils peuvent pas se séparer. Mono, par exemple, ils peuvent pas se séparer. Et ils le montrent tout le temps.
Qui ça?
Mon quoi?
Mono gigote toujours.
Oh putain.
On est mardi, hein.
La rue Alfred de Vigny a dû bien s'amuser cette nuit, hein, Pierre Bénichoux.
Mon club n'est plus rue Alfred de Vigny.
Ah.
Nous avons été expulsés.
Mais vous avez joué au poker cette nuit.
Mais pas du tout, j'ai pas joué au poker cette nuit. Mais qu'est-ce que tu crois que je suis un jeune homme comme toi qui joue au poker? Parfois,
je joue pas, moi.
Il joue pas encore, je vais lui enseigner bientôt.
Ah oui, on fait un week-end.
Si tu lui apprends comme le piano, il ira loin.
Oh, le but, c'est pas de devenir pro, c'est de s'amuser.
Ah oui, on fait un week-end poker chez moi à la campagne, un de ces quatre, là. Ah, c'est prévu.
Avec plaisir.
Vous venez, Olivier?
Ah, j'ai hâte de pas être là.
On n'a pas fixé la date encore.
Ah, mais je sens que je sais pas.
Il n'est pas là quand même. Moi, j'ai un enterrement.
Vous jouez pas au poker, vous, Olivier?
Aucun jeu de cartes, non.
Ah ouais?
Aucun jeu de hasard, non.
Ouais. Et par exemple, le téléphone qui sonne, c'est un hasard, ça?
Non, c'est pas un hasard, c'est un rendez-vous.
Mais ça sert à quoi? Puisque de toute façon, tu vas répondre, je peux pas parler.
Je vais répondre ce que je veux. D'abord, va jouer au piano. Toi, tais-toi, il va tourner.
Oh, mon instrument est plus gros, si je puis dire. J'espère que le tien aussi, d'ailleurs.
Oui, mais elle est beaucoup plus fraîche.
Non.
Tais-toi, il va tourner, dit-il à une pianiste de concert. Il répond, mon instrument est plus gros. C'est pas du tout ce qu'on m'avait annoncé au départ.
Ah, elle est délicate, la princesse. Hein.
Elle est tellement grosse, quand elle joue du piano, on croirait que c'est un accordéon.
C'est la première.
Je vous ferai bien, j'ai fait 10 ans de danse classique, je vous ferai pas le grand écart.
C'est la première fois que j'ai envisagé la levrette musicale. Moi, je joue très bien, attends.
Tu joues très très bien.
Moi j'ai adoré, j'aime pas la musique, mais la musique interprétée par toi, c'est accessible même à mon oreille sauvage.
J'étais en larmes, j'étais en larmes.
Il était en larmes.
Tu sais que tu vas aller sur un bateau bientôt, avec ton piano.
Avec mon piano.
Les croisières Caroline Diamant. N'hésitez pas. Ce soir, la bouée joue pour vous.
Je continuerai à flotter.
Allez, dans un instant, les objets de Jérôme Bonaldi.
Europe 1, on va se gêner.
Quoi de neuf, Jérôme?
J'espère que cette semaine, vous nous avez apporté des choses à manger, Jérôme.
Des bonnes choses à manger. Bon. J'espère en tout cas que ça va vous plaire.
C'est quoi?
Les beaux jours reviennent, ce sont des glaces.
À quoi?
Mais alors, celle-là est Neandertal, un mélange de fruits rouges.
Mais elles sortent du frais, là, vous me garantissez.
Oui, 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 tout à fait. Hein. Vous savez pourquoi elles sont bonnes ?
Parce qu'il y a du persil dedans.
Parce que c'est moi qui les ai faites.
Putain, dis-le avant.
Goûtez, c'est que des fruits naturels.
Mais elles sont bonnes.
C'est un truc vachement bien. C'est pour faire des glaces soi-même, sans sorbetière. Vous savez, bon. D'habitude, il faut mélanger, mettre au congélateur et faire tourner en même temps.
C'est
parce que sinon, ça fait des cristaux.
On dirait de la mousse.
Et parce que, alors, c'est le principe même de la glace. En fait, quand tu prends de la glace, t'achètes de l'air, quoi. C'est très, très peu. Donc, l'idée, elle est, c'est Alza qui fait ça. Un petit sachet, tu mélanges avec du lait.
Ça fait grossir,
non,
ça ou pas?
Non, il n'y a pas de crème.
Il n'y a pas de sucre.
Dans la recette, on peut rajouter de la crème.
C'est comme dans le bouillon, on voit les yeux. Hein.
Alors, donc, tu mélanges ça avec.
Ah, mais
c'est
pas des vrais fruits?
Non, non, non. Et toi-même, tu mets tes fruits frais. Ah. Tu mets 500 grammes de fruits frais. Et comme ça, tu peux te faire des abricots, des fraises, des framboises, un mélange. Moi, j'ai été chez Picard surgelé, acheter un mélange de fruits 100% naturels, de fruits rouges.
Heureusement qu'elle a encore ça pour vivre, la chanteuse Elsa.
Non, c'est...
Et on peut le faire avec de la vanille, du chocolat?
Et tu peux le faire avec, tu peux inventer du melon, de la pastèque, de la poire, tu mélanges tout ce que tu veux. Ouais. C'est ta glace à toi.
Combien de temps pour
ça
le faire?
Ça prend très peu de temps. Vraiment, ça prend très 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 peu de temps. J'ai fait avec Valentine, ma fille, on a fait ça en 10 minutes.
Attendez, un truc que je
faut faire
pas.
Un truc, attention quand non, tu passes
attendez,
au fouet.
Attendez, il y a un truc que je comprends pas. Sur le sac là que vous m'avez donné, vide, c'est marqué prévoir 500 grammes de fruits frais.
Oui. C'est pas voilà, il faut
que tu... Attends, dans le sac, il y a quoi si j'ajoute
il y
a la préparation et toi-même tu vas rajouter des fruits. C'est ça qui est formidable.
Mais c'est quoi la préparation?
C'est une sorte
tu veux pas savoir. Ouais.
C'est du c'est de la poudre un peu
quelque chose qui ne va pas quand tu dis on a un petit sac, un petit sachet de 100 grammes dont tu dis il faut rajouter des fruits.
Oui.
Non, tu achètes des fruits, tu fais ta confiture et tu ce qui est la chose la plus emmerdante du monde et après ça tu rajoutes un peu de ton condiment. C'est pas que tu rajoutes des fruits à ça, tu rajoutes ça aux fruits.
Oui,
si tu veux.
C'est ça.
Hein, si tu veux.
Voilà. Et donc c'est les fruits que tu veux, quand tu veux. Et surtout pas besoin de sorbetière. C'est dans un grand mouvement qui est home sweet home, enfin homemade. Tu sais que de plus en plus, les pâtisseries industrielles, on l'achète de moins en moins. Mmh. En revanche, la levure, ça se fait de plus en plus.
On fabrique son pain à la maison.
On fabrique son pain. On va plus, on fait le beer thunder, on va plus au bistrot. On fait soi-même l'épilation, on va plus les jetisser.
Ça a goût de mousse à raser, attends.
Oui, c'est ça. Je sais de quoi ça avait le goût, la mousse à raser. Quoi d'autre?
Un grill électrique, 2400 watts, le dernier nouveau de chez Seb, avec un truc en plus qui est, vous savez qu'on peut comme ça, on est pas obligé de mettre de la graisse, c'est plus une sorte de plancha, on peut faire cuire plus sainement. Le problème après, c'est qu'en général, ça cramait. Tu sais, réaction de Maillard, tout ça, c'était cradingue.
Quand tu mets le feu.
Voilà. Et non, mais même sans mettre le feu, la graisse, les polyinsaturés, tout ça noircit. Et il fallait laver à la main. Non! C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est pas grand chose, c'est pas ça qui va régler le problème de la faim dans le monde.
La grille s'enlève.
Regarde, la grille s'enlève et elle va.
Tu veux dire que...
Et elle va au lave-vaisselle.
Attends.
Tu veux dire que c'est un barbecue qui va au lave-vaisselle?
Ouais.
Attends,
c'est
génial.
Mais ça va enfin, là, tu sais, le truc dégueulasse.
C'est génial.
Après, il fallait nettoyer l'évier, il fallait changer la brosse, tellement c'était cradin.
Moi, je le faisais plus à cause de ça.
Mais directement le lave-vaisselle.
Pourquoi ils inventent pas le grill dans le lave-vaisselle? C'est-à-dire qu'on mettrait les merguez dans le lave-vaisselle.
Presque.
Et il y aurait une fonction grill dans le lave-vaisselle.
C'est presque.
On gagnerait du temps.
Autre chose. Ça, c'est vachement malin, c'est décapant.
Ça s'appellerait un four. C'est ce que j'allais dire.
Alors, si vous allez chez Decathlon, vous pouvez acheter des tas et des tas de chaussures de sport simplement.
Ah, vous avez pris ma taille?
Oui.
43?
Oui, chef.
C'est qui fait du 46?
Ah merde.
C'est
40. Ils sont trompés. C'est des chaussures, il y a pour tous les styles. L'intéressant, c'est qu'on achète, à part la semelle et la chaussure.
C'est-à-dire?
Tu achètes la semelle, ici, 8 euros.
Ça doit
et la chaussure, regarde, elle
courir,
est toute moche, elle est toute fine. Tu l'achètes 7 euros. Mais si bien que, du coup, la première paire te coûte 8,75€. Mais la deuxième paire,
la semelle est réutilisable.
T'aimes bien le vert et le rouge. Tu prends le vert et le rouge, 7 plus 7, plus la semelle, parce que tu vas pas porter deux paires de chaussures
elle
en même temps. Ça te fait deux paires à 22
elle
euros.
Elle pue des pieds avant qu'on ait mis les pieds dedans. C'est quand même formidable.
C'est incroyable.
Elle pue déjà.
Tu changes la semelle.
Même pas besoin de la faire puer vous-même.
La semelle
peut passer d'une chaussure à l'autre.
La glace à l'intérieur. Et après, on pose de tout sur le grill.
J'ai rien compris parce que
moi, elles
se démontent pas vos chaussures.
Mais non, juste
voici la semelle.
Tu glisses la semelle à l'intérieur.
Vous glissez la semelle à l'intérieur. Ça vous fait une paire pour 8 et 7, 15. Sauf que si vous achetez deux chaussures et une paire de semelles, ça vous fait 22. Quatre paires de chaussures. 7 plus 7 plus 7 plus 7, t'en as pour 36 euros.
Enfin, on n'a pas. C'est idiot. On n'a pas 8 jambes.
Mais non, mais t'as pas 8 jambes.
Ça t'intéresse à 1000 pattes.
Il n'y a pas de 1000 pattes ici.
Celle-là, c'est du 46.
Non, c'est tout 46.
Mais pourquoi elle est pris du 46?
Parce qu'ils se sont trompés. Je suis désolé, chef. C'est marrant. Si j'avais dit.
C'était pas mal, les noirs. Les noirs, elles étaient bien.
Elles sont belles.
Les noires et argent.
Et tu les as pour pas un rond. C'est New. Tu peux les changer comme tu veux.
C'est New Feel qui fait ça.
C'est, en fait, c'est Decathlon, c'est la nouvelle marque de chez Decathlon.
C'est pas mal. Franchement,
non,
c'est pas, celle-là, elle est pas mal. Ouais. C'est, pour Joujou, c'est portable, ça, parce qu'il met toujours des chaussures un peu de clown, là.
C'est, ouais, c'est des baskets, quoi.
Ouais, ouais, tu peux changer, t'as plein de couleurs différentes. Bah, et pour pas cher du tout.
C'est vrai, Joujou, il a toujours des chaussures de clown. Vous avez remarqué à ses pieds, il a toujours des trucs un peu bizarres.
Des baskets un peu à la mode, quoi.
Il se donne un genre. Non, 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 pas à la mode. Non, là, la mode.
Pas à la mode.
Une dernière chose.
C'est pas nouveau, ça vient pas de sortir. Mais qu'est-ce que ça remarche bien, le savon noir.
Ah,
de plus en plus de gens redécouvrent les vertus du savon noir.
Ça décrasse?
Ça fait tout. Ça fait tout. Ça enlève.
Non, c'était la marque, moi, ça décrasse.
Non, c'est le Jacques Briochin, le mien.
Ah bon.
À Saint-Illion, dans les Côtes-d'Armor.
Ben, ça vaut pas, ça décrasse.
À partir de lin. Et donc, on redécouvre les vertus de ce truc-là. Fort de ce succès, Briochin, Jacques Briochin de Saint-Illion.
Ah, Jacques Briochin.
Comment il va, Jaco?
Il est un peu mort.
Toujours dans le cirage?
Mais. Non, non. Hey, faites gaffe, confondez pas savon noir
et c'est pas pareil. Alors qu'est-ce que ça fait, le savon noir?
Ça nettoie. Ça
mais
protège la vaisselle,
les
murs.
Quand tu mets sur tes mains du savon noir, elles ont l'air vraiment dégueulasses. Dès que tu mets sous l'eau, elles paraissent propres. C'est une illusion d'optique.
Voilà.
Ça lave pas plus que le reste.
Montrez votre
briochin. C'est à base de lin. Il n'y a pas de phosphate.
Tout ce qui est des trucs de pendant la guerre, ils nous les vendent aujourd'hui à prix.
Je déteste déjà les boîtes qu'on n'arrive pas à ouvrir.
Mais ça, c'est la boîte collector que vous avez. Et à l'intérieur, vous allez trouver la boîte comme on la trouve aujourd'hui.
Voilà.
C'est le bon vieux à base de lin. Vous
ça
savez que
pas.
Ça, vous le mélangez avec un peu d'eau.
Et la glace.
Vous le mettez
et
dans
tu mets des fruits rouges.
Mais
la glace.
Vous savez que limite, vous auriez pu nous la vendre comme de la glace, ça.
Tu trempes ta godasse à l'intérieur.
Et fort du succès du savon noir, voici maintenant la lessive au savon noir. La lessive pour les tissus. C'est certifié par EcoCert.
Donc
ça marche pas.
Je vais te dire, Jean-Paul EcoCert.
Si c'est certifié par
EcoCert. Ta tâche, elle est là, elle reste. Ouais.
Non.
Attends.
Ah oui, EcoCertifie que la tâche reste.
Ça marche des 30 degrés.
C'est ça.
Il y a des tas d'écolos qui vont
aller là-dessus.
Ça m'énerve parce que les écolos.
Plus en plus chaud.
Vous achetez ça.
On s'en fout, ça marche à 30 degrés.
Et c'est fait dans du plastoc quand même.
Mais il faut bien l'emballer.
Pourquoi
il n'emballe pas dans du papier? Dans du papier recyclable.
Non, mais c'est toujours pareil. D'un côté, on te vend un truc écolo, et de l'autre côté, tu le mets dans les ordures.
Mais tu veux mettre.
Ça marche pas.
Mais attends, mais c'est. D'abord.
Eh ben, donc, ça, laissez-nous prendre des trucs qui tuent les poissons.
Moi, pour tester, je commencerai par nettoyer le barbecue avec, pour voir ce que ça donne. Et puis après, on verra pour le reste. Non, c'était pas mal. En termes alimentaires, on va dire que c'était pas encore tout à fait ça aujourd'hui.
La glace.
Non, mais c'est peut-être parce que Bonaldi, c'est pas s'en servir.
Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui l'a fait.
Non, mais c'est sa fille qui s'est vengée. Imaginez-vous la place de cette gamine. Élevé par ce malade mental. Tous les semaines, il lui fait faire un truc qu'elle n'a pas envie de faire, là. Elle a dû mettre, je sais pas quoi, du cirage dedans.
Là, ça fait 3 jours qu'elle se promène avec des chaussures du 46.
Comment elle s'appelle, votre
Valentine.
Fille
Valentine.
Valentine.
Oui, la pauvre Valentine.
En plus, il a donné la longue peinture, franchement.
Elle a été obligée de mettre les chaussures, maintenant elle va puer les pieds pendant une semaine.
Ça l'avait tout petit.
Si elle se lave les pieds avec le savon noir, les pieds vont être noirs et vont puer. Après, il n'y a plus qu'à manger la glace.
Elle va prendre 22
immédiate.
Kilos avec la
mais
glace.
Mais c'est une vie maudite qu'elle a, cette gamine.
Ouais.
Elle avait tout petit peloton. Non, du 46, Valentine.
Dans un instant, notre invité d'honneur, qui, me signale-t-on, est déjà arrivé dans la loge d'honneur. Mais de qui s'agit-il? Suspense, vous le saurez après 18h.
Europe 1. On va se gêner.
Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur.
Qui est là aujourd'hui? Qui va rester avec nous? Une chance pour nous. Jusqu'à 18h30. Bonjour, invité d'honneur.
Bonjour.
Il rigole déjà.
C'est ma voix qui fait rire.
C'est Raymond Barre.
Qui est là? Attention, invité d'honneur, n'en dites jamais trop, car mes camarades sont très malins. Hier, ils ont été très très rapides, alors c'est beaucoup moins amusant. Il faut bien les faire chercher. Évidemment, ne répondez que la vérité, mais uniquement par oui ou par non, d'accord?
Bonjour, monsieur.
Non, je suis une femme.
Bon, mademoiselle?
Non.
Mariée?
Oui.
Êtes-vous actrice?
Non.
Est-ce que vous avez peur d'Olivier de Kersauzon? Parce que fais gaffe, il vient de vous rejoindre, là.
Je l'adore.
Allez, il va arriver dans un instant.
Vous le connaissiez?
Non.
Est-ce que vous...
La manière dont il me regarde, J'adore ce regard.
Êtes-vous chanteuse?
Oui.
Ça tombe bien, il adore la musique.
Est-ce que vous avez déjà été accompagnée par Caroline Diamant?
Ça pourrait, parce que Caroline a accompagné de nombreux artistes, pas au piano, mais dans les maisons de disques.
J'aime beaucoup Caroline, elle le sait.
Attention, vous en dites trop déjà. Là.
Ah, vous connaissiez Caroline Diamant.
Est-ce que vous jouez au poker?
Oui.
Vous êtes chanteuse qui joue au poker?
J'adore le poker, oui.
Est-ce que vous faites les Restos du Cœur?
Oui.
On vous a vu à Nice sur TF1 et tout, là, dans le... Vous étiez sur la scène avec tout le monde?
Oui.
J'ai un indice. Vous voulez un indice?
Allez.
Ça va vous mettre sur
la
piste,
un
forcément.
Indice pourri.
Un premier indice pourri. Musical, pas pourri du tout. Écoutez. C'est joli en plus, je trouve.
Très joli, mais ça nous,
mais
pas
ça
du tout
nous aide
la piste.
Pas du tout.
Est-ce que vous avez compris cet indice, invité?
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Vous avez chanté cette chanson déjà?
Non.
Vous étiez à la guitare derrière, là,
la mandoline? Non.
La mandoline.
Est-ce que c'est une origine qui vous correspond? C'est un pays qui vous correspond?
Non.
C'est une chanteuse dont vous êtes fan?
J'aime beaucoup, mais non, c'est pas pour ça que c'est mon avis.
Je vous signale que c'est un chanteur qu'on vient d'entendre.
Non.
C'est un homme qui chante.
C'est un homme qui chantait?
Vous êtes blonde?
Non.
Brune?
Non.
Non plus.
Chauve?
Non.
Cantatrice et chauve? Je vois pas du tout.
Attendez, j'ai fait une confusion parce que j'ai cru que c'était un homme qui chantait, parce que le voilà, l'homme qui chantait, j'ai inversé deux indices. Voici l'indice suivant. Et c'est beaucoup moins joli. Je comprends pourquoi c'était joli, là, le premier indice.
Ah oui, je reconnais cet homme.
Non.
Comment vous décrire cet ange ou ces démons? Tout mon cœur la désire.
Non.
Et j'ai besoin de un sourire pour moi.
C'est marrant, c'est moins joli, mais c'est plus marrant.
Est-ce que vous
là,
aimez...
c'est un homme qui chante.
Ah, voilà.
Est-ce que vous aimez les diamants?
Non.
Vous croquez pas les...
Non, je suis pas une croqueuse de diamants. Non.
Bon.
Ah, vous pensiez à Catherine Lara?
Eh oui. Elle est ni brune ni blonde, elle dit la
Réfléchissez
dame.
Réfléchissez encore, et dans un instant, on va demander à Olivier de Kersauzon de nous décrire notre invitée. Vous savez que c'est une chanteuse, qu'elle fait partie des Enfoirés au Resto du Cœur, donc à mon avis, ça va aller vite. Ce sera après la pub.
Retour dans la loge d'honneur d'Europe 1, où on retrouve Laurent Ruquier avec ses complices qui avancent un petit peu concernant l'invitée d'honneur. Elle n'a pas été trouvée, mais il y a quelques éléments qui vont dans le bon sens.
Europe 1, on va se gêner.
Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur.
On a avancé, on sait que notre invité d'honneur est une chanteuse, qu'en plus elle fait partie de la troupe formidable des Restos du Cœur, les Enfoirés. Elle était d'ailleurs à Nice et on signale au passage que le DVD est toujours en vente au profit des Restos. Mais Olivier de Kersauzon est arrivé dans la loge. Est-ce que vous pourriez, pour peut-être aider mes camarades, voire même confirmer leur idée, parce que je crois qu'il y en a une ou deux qui peut-être on va, ah non, pas Michalak en tout cas, mais Michel a peut-être une vague idée, alors
ouais.
Description physique qui pourrait confirmer ce à quoi elle pense. Olivier,
elle doit faire 1m70. Elle est pas mal, hein?
Ah oui, oui,
elle est pas mal, elle a des beaux cheveux,
ouais.
La bouche est pas bien aussi. Non, elle est bien, elle est,
mais genre Caroline Diamant,
c'est une assez jeune femme, comme on aime bien, quoi.
Bien habillée.
Ouais, mais c'est quand Pierre Bénichou va la voir, son cœur va battre.
Ah,
ma Pierre dort là.
Pour l'instant, il ronfle son cœur.
Elle a un très beau sourire.
Ah.
Elle est pas agressive.
Elle fume.
Elle a l'air un peu moins conne que l'ensemble des chanteuses.
Caroline, Michel. Alors peut-être pour confirmer votre idée, Michel, une question.
Est-ce que votre carrière doit effectivement à Dalida? Enfin, à côté, quoi.
Il y a quelque chose comme ça.
Voilà.
Ah, voilà.
Est-ce que vous êtes une chanteuse à voix?
J'aime pas ce terme.
Ouais, c'est pas beau, ouais.
Est-ce que Julien Clerc a chanté une chanson qui utilisait votre prénom?
Tout à fait.
Alors, bah, alors là, je crois que ça y est, on y est.
Heureusement qu'elles ont trouvé les filles, parce que c'est mes filles.
On va pouvoir faire rentrer notre invité dans notre studio tout de suite. Facile. Un, deux, trois, c'est...
Hélène Segarra.
Hélène Segarra qui nous a rejoint dans ce studio.
On embrasse tout le monde.
Parce qu'Hélène, elle est chaleureuse, Hélène.
Oui.
Ah ouais.
Approche, ouais, pas peur.
Pas peur, j'ai pas peur.
Hélène Segarra.
Tu sais, quand on reste en loge seul avec Olivier, on n'a plus peur de rien après.
Ah oui, mais disons qu'il vous a fait des compliments, je peux vous
il
dire.
Il est très beau, je trouve, il est troublant.
Il est gentil, hein.
Oui, il est brave.
C'est rare quand il fait des compliments comme ça à une
c'est
chanteuse.
C'est vrai, ben, j'apprécie, mais je l'écoute souvent et c'est vrai qu'il en voit quand même.
Encore, il n'a pas tout envoyé, vous allez voir.
Il n'a pas donné du bon jus à Pépé.
Ça faisait longtemps, ça.
Ce qui est bien, c'est que excusez-moi, je crains de voir
comment on peut être une pianiste aussi élevée et un poids lourd de l'humour comme ça.
Il était pareil.
Le bon jeu, non, mais sérieusement. Mais même Carcasson est rouge.
Hélène Segarra nous apporte un livre au profit de l'association Éléphant Asia. C'est publié aux éditions Ipanema, parce qu'elle est partie au Laos, Hélène, à la demande d'une association, oui, pour découvrir un problème sur place que nous, on ignore, il faut le dire,
oui,
mais vous allez le mettre justement dans la tête de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, la disparition des éléphants en Afrique
évidemment,
et en Asie.
C'est pas forcément ce qui nous empêche de dormir tous la nuit, la disparition des éléphants, sans doute. Là, j'ai été contactée pendant un an par cette émission, qui était pour une émission pilote, parce qu'il y a plusieurs animaux qui sont menacés de disparition, et je dis bien de disparition immédiate. Donc, on m'a proposé un panel d'animaux, notamment baleines, animaux aquatiques, mais c'était pas la saison pour nous pour y aller. Et j'ai choisi l'éléphant. Et en partant au Laos, qui est quand même un des pays les plus pauvres et les plus sauvages encore d'Asie, eh bien, je suis allée à la rencontre d'un animal extraordinaire et d'un peuple formidable aussi.
On vous voit dans le livre à dos d'éléphant, vous avez vraiment...
C'était roots, ouais, c'était bien.
Ah oui, bon. Oui. Combien de temps vous avez passé là-bas?
10 jours.
10 jours, 10 jours avec les éléphants. Et est-ce que
il
les éléphants...
Il faut mieux être assis sur un éléphant quand qu'allongé sous un chameau. c'est le début de notre émission.
Et pourquoi ils disparaissent?
Pour ceux qui nous suivent depuis 16 heures. Ouais. Est-ce qu'il y a une disparition identique en Afrique des éléphants?
Non, ils ne sont pas menacés. Le Laos,
ah, donc c'est vraiment uniquement l'éléphant d'Asie?
Mais il est très joli, l'éléphant d'Asie. Il est un peu plus petit. Il y a pas mal de différences. Par exemple, la femelle n'a pas de défense. Et c'est vrai que le Laos, c'était le pays qu'on appelait le pays au million d'éléphants. Et puis, il n'en reste plus qu'un millier.
Mais je ne comprends pas parce que, en général, on tue les éléphants pour s'approprier ses défenses.
Non, certains pays.
Donc ça m'étonne que les femelles n'ayant pas de défense, on les tue quand même.
Mais l'éléphant du Laos n'est pas menacé pour le trafic d'ivoire. Il est menacé parce que le Laos étant un pays très pauvre, le travail du débardage est une des premières causes économiques du Laos.
Ils les tuent pour les manger ?
Non,
il y a de moins en moins de forêts.
Ils s'en servent pour le bois, pour le travail du bois. Et donc, il faut savoir qu'une femelle éléphant, pour faire un petit, elle a 22 mois de gestation et après 3 ans jusqu'au sevrage. Ça veut dire 5 ans sans que l'éléphant qui fait vivre toute une famille ne puisse travailler. Donc du coup, ils les laissent plus se reproduire. Et une femelle éléphant qui ne s'est pas reproduite, au bout de 10 ans, elle est stérile. Donc en fait, ils sont en train de s'éteindre parce qu'ils sont trop sollicités dans le travail là-bas. Et parce que c'est vrai qu'ils aident vraiment tout un village à vivre.
Vous êtes devenu incollable sur les éléphants, c'est incroyable.
Ben, je me suis immergée. D'ailleurs, au départ, c'est vrai que je m'attendais à pouvoir faire un brushing quand même là-bas, mais ça n'a pas été possible. J'avais pas d'électricité, pas de téléphone, pas d'ordi.
Oui, on voit vrai. Si tu mets un éléphant d'un côté, tes cheveux comme ça. Voilà. S'il tire, ça
mais
fait comme un brochet.
C'était extraordinaire. Enfin, je conseille à tout le monde un petit peu de temps en temps de se dépolluer de tout ce qui nous entoure.
Et de partir.
Je ne vais pas le dire à mon voisin de droite.
C'est 25 euros ce livre que j'ai dans les mains avec de superbes photos qui racontent.
On reverse tout pour les éléphants. Parce qu'avec 1500 euros, on paye une naissance d'un bébé.
Voilà. 25 euros au profit de l'association Éléphant Asia, dont la marraine est aujourd'hui Hélène Segarra, qui reste avec nous jusqu'à 18h30.
Merci.
Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier. On le retrouve avec son invité d'honneur, la chanteuse Hélène Segarra.
Hélène Segarra est notre invitée. Elle a été assez vite découverte par mes camarades Caroline Diamant et Michel Bernier. On pourrait peut-être réexpliquer les indices que nous avons diffusés en tout début d'émission. D'abord, le premier indice, dans ma tête, j'avais inversé. Alors, je me disais, putain, qu'est-ce qu'il chante bien? Mais non, évidemment, le premier indice, c'était
Noah.
La chanteuse Noah. Non pas Yannick Noah, la chanteuse qui a en fait fait le disque dans le rôle d'Esmeralda.
Qui a fait l'enregistrement studio de Notre-Dame de Paris et qui après s'est désisté pour le rôle sur scène. Donc moi j'ai dit oui.
Pour votre plus grand bonheur.
Ben voilà.
Et elle a eu tort.
Et comment t'as bien fait?
Alors ça c'était Noah, mais moi je croyais pas que c'était Noah parce que j'avais inversé les deux indices. Je pensais que c'était, écoutez, Orlando. Parce que c'est Orlando qui chante. Le frère de Dalida qui a sorti un 45 tours à ses débuts.
Avant elle et qui après a laissé tomber sa carrière.
Tu vois, quand j'ai dit que ça ressemblait à Dalida, il y avait
quelque chose, sauf que c'est plus masculin comme timbre.
Enfin,
Dalida est plus masculin.
Non.
Fais du bruit, c'est la nouvelle chanteuse italienne.
Fais du bruit.
Quel rapport entre vous et Dalida?
Son frère, c'est mon producteur, c'est lui qui m'a.
Il n'y a que vous, Bonaldi, qui ne savait pas.
Mais Victor Hugo, pour être français, il faut redire les bonnes choses.
Je ne savais pas que tu jouais au poker, en revanche.
Mais tu ne savais pas, mais moi, je t'ai déjà vu dans les émissions, et moi, je fais des soirées chez moi, mais c'est terrible. On joue entre copains, évidemment, mais on joue quand même des ronds, parce que sinon, personne, tout le monde bluffe, donc ça ne m'intéresse pas.
Parce qu'il y a un week-end qui est organisé, là.
Ah oui, parce que nous, on fait un week-end chez moi, un week-end poker.
Mais alors là, j'espère que c'est un week-end où je suis là.
Vous venez? Il y aura Olivier de Kersauzon.
Du coup, il y aura Olivier.
Ouais, mais alors je vais vous dire.
Vous qui aimez les éléphants, vous n'allez pas être déçus.
Pourquoi?
Et Sonar, c'est idiot.
Olivier, regardez, vous êtes séduit par Hélène. Vous seriez capable de nous chanter une petite chanson, un petit refrain, un petit tube d'Hélène Segarra, Olivier?
Ah non.
Accompagné par Caroline au piano, non?
Non, non.
Pas de joli.
Mais je connais. Mais je vois qui c'est.
Ah ouais?
Ouais. Elle va venir ici bientôt.
Vous voulez que je vous rafraîchisse un peu la mémoire?
Allez.
Un petit pot pourri, comme on dit. Un petit medley, parce que
pot pourri, c'est moche.
Un pot pourri, c'est
moche. Non, c'est pas que c'est moche, mais ça fait vraiment
ça va
les 50.
Mais surtout, ça va pas à tout le monde.
Un medley, une sorte de, comment medley. On pourrait dire?
De fleurilège.
Une sorte medley, ça veut dire un mélange?
Voilà.
Fleurilège, c'est plus joli.
Fleurilège.
Une sorte de fleurilège.
Un mélanging, mélanging pot.
Le palmarès des chansons d'Hélène Segarra. Il y a trop de gens qui t'aiment.
Tu l'aimes.
un best-of, Hélène Segara. Voilà.
Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier avec son équipe du jour. Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Olivier de Kersauzon, Jérémy Michalak et l'invité d'honneur qui est une chanteuse aujourd'hui.
Hélène Segara avec nous jusqu'à 18h30 à l'occasion de la sortie aux éditions Ipanema d'Au cœur du Laos. Des photos, un texte qui...
Un carnet de route, ouais.
Voilà, qui joignent un documentaire en quelque sorte qu'a fait...
Oui, c'est un documentaire qu'a fait
Hélène Segara, voilà, Au cœur du Laos. Pour la défense, et le mot n'est jamais trop fort, pour la défense des, oui. des éléphants qui disparaissent en Asie, les éléphants d'Asie, leur protection, c'est le nouveau combat d'Hélène Segara qui a beaucoup fait pour l'enfance déjà, mais après les enfants, les petits éléphants. Bah, voilà.
Il faut quand même dire qu'avec les éléphants, on a été dans des villages complètement paumés dans la jungle et on leur a acheminé des livres, puisque l'éléphant peut passer partout, même pendant la saison des pluies, et c'était le premier livre de leur vie, donc ça touche à l'enfance et à l'éducation aussi, évidemment.
On aime tous l'éléphant à cause de Babar, on a tous été... Par Babar.
Moi, je les aime encore plus maintenant.
Et Olivier lui-même est un enfant de Babar.
Oui.
Ah, il a été de Babar
je
en Babar.
Je me demandais de l'enfant de qui j'étais, mais maintenant vous me l'expliquez. Ça me fait vachement plaisir.
J'ai vu une larme perler pendant les chansons d'Hélène Segara tout à l'heure, Olivier.
Il était très ému.
Ouais, mais j'étais très ému.
Sinon, t'as vu pleurer, c'était avant ou après que tu proposes la branlette espagnole à Caroline?
Je me souviens plus.
J'ai entendu. Ouais.
C'est assez terrible, là, quand même.
Ils sont odieux.
Je suis désolé.
Non, pas du tout, pas du tout. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une émission culturelle.
Dans ces conditions, dans cette émission. Mais alors, Hélène, expliquez-moi là. Parce que là, moi, j'attends. Regardez cette femme. Elle est belle. Hein, elle est belle. Ouais, si, bah, elle est belle.
Hélène Segara, bah,
comment ça, elle est belle.
Elle est belle.
À belle, il y a marqué Hélène.
Elle a une jolie voix.
Ouais.
Elle chante des chansons, mais alors populaires, qu'on aime, des chansons qu'on peut.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'elle fait? On attend le nouvel album.
Mais
quand est-ce qu'il vient?
Feignasse.
Ah ben voilà, c'est ça. Non, j'ai tourné pas mal cette année et puis c'est vrai que on m'a mis un peu, j'ai un peu la pression là, donc je suis en train de le faire, mais j'ai envie d'écrire des choses gays. Donc c'est un exercice difficile pour moi parce que autant je suis une rigolarde dans la vie, Mimi et Caroline le savent, mais c'est vrai que dès que je me mets devant un micro, il faut que je pleure.
Alors que tu dis, on a des chansons gays, on en a. Hein.
Ah, oui.
Pierre, qu'est-ce que vous pourriez proposer
Pierre est un spécialiste de la chanson.
Je vous ai réveillé, Pierre, pardon. Qu'est-ce que vous avez comme chanson gay à proposer à Hélène?
Chanson triste ou chanson gay, musique orientale ou musique espagnole. C'est la musique qui m'affole, on m'appelle à l'oriental, je suis un sentimental.
Ça a déjà été fait. Ça, Orlando dit non. Olivier, peut-être vous pourriez écrire des chansons un peu gays pour Hélène Segara.
Oh, mon bateau.
C'est bien gay.
Mais ça veut dire qu'il y a déjà des chansons décrites ou pas?
Oui.
Ah, quand même, donc c'est en route. Un petit hommage à Orlando, vous n'avez jamais fait ça en chanson. Oh, Orlando, oh, tu es le plus beau des empresarios. Ah. Voilà, un truc
avec
comme ça.
Nous, t'auras que des rimes riches. Les crevettes te disent olé, je ne sais pas si ça va le faire.
Bah, diront autre chose, les crevettes.
En tout cas, j'ai une forte inspiration qui vient.
Ah ouais. Là, c'est beaucoup plus joyeux. Je ne suis pas sûr que vous en vendrez beaucoup. Hein, mais
allez, on va te poster chacun un texte pour demain.
Ce sera de toute façon l'occasion de nous revoir et c'était un plaisir, Hélène, de vous accueillir.
Aussi, merci pour eux.
À l'occasion de la sortie d'Au cœur du Laos. Laos, ça veut dire au départ le pays au...
Ça ne veut pas dire, mais c'est le pays au million d'éléphants.
Ouais. Le pays au million d'éléphants, il y en a de moins en moins là-bas. Voilà pourquoi on vous a sensibilisé à ce sujet. Et vous-même, aujourd'hui, vous tentez de le faire, de nous sensibiliser.
Merci.
Hélène Segara, Au cœur du Laos pour la protection des éléphants d'Asie. C'est un superbe livre avec des jolies photos et des textes. Pas seulement pour les fans d'Hélène Segara, aux éditions Ipanema.
Non, pour ceux qui souhaitent découvrir un petit peu l'Asie aussi, ce pays, en tout cas, je vous le conseille, parce qu'il s'ouvre à peine au tourisme. Donc c'est bien.
Merci Hélène.
Merci.
À très vite,
merci
à demain, beaucoup. 16h.
À demain, très cher Laurent, 16h, 18h30 sur Europe 1, bien entendu, pour On va gêner.